This station is being brought to you via NullSoft Shoutcast streaming technology. For more information, visit shoutcast.com.
Bonjour, je suis Patrick Giraud, responsable du Lucasfilm Magazine, le magazine officiel de Star Wars en France, et vous êtes sur Star Wars en direct.
Legends Action Figures, l'endroit par excellence au Canada pour vos figurines et produits dérivés de Star Wars. www.legendsactionfigures.com.
Toy Palace est le seul arrêt pour vos produits dérivés de Star Wars. Vous y retrouverez toutes les collections Hasbro de Power of the Force 2 jusqu'à la récente collection Original Trilogy, ainsi que de nombreux produits d'autres licenciés Star Wars tels que Atacus, Master Replica, Code 3, Gentle Giant. Branchez-vous et faites l'expérience de l'achat en ligne chez Toy Palace, le numéro 1 d'Europe pour les produits dérivés de Star Wars. www.toy-palace.com.
Cyclan.net, c'est les toutes dernières actualités sur l'univers Star Wars. Plusieurs dossiers sur la saga. Des événements et rencontres entre fans. Un énorme forum de discussion. Une radio web à contenu 100% Star Wars, incluant une ligne ouverte en direct. Plusieurs concours ouverts au Québec et en Europe. Et bien plus encore. Ne résistez pas à la tentation du côté obscur. Cliquez sur le www.cyclan.net.
Star Wars en direct est une présentation de SimpleNet. Avec SimpleNet, obtenez à moindre frais une vitrine publicitaire pour votre compagnie ou tout simplement un espace pour héberger votre site personnel. Rejoignez-nous au www.simple-net.ca.
Jam its transmissions.
A communications disruption can mean only one thing.
Here they come.
The coordinate tractor beam is pulling us in.
You may fire when ready.
Commence primary ignition.
Et bienvenue à Star Wars en direct, la voix de la communauté francophone de Star Wars. Mon œil lunatique, et je suis en compagnie de JGM Will Mutez. Bonjour.
C'est bien. Ça s'améliore de fois en fois.
Désolé pour le petit problème technique. En allant atteindre ma souris, j'ai accroché la touche Enter.
Quelque peu.
A repris l'extrait de l'introduction qui a tout simplement reparti. Bon, cette semaine, on parle de Sestus Deception, le roman de Stephen Barnes, le dernier roman, le dernier hardcover plutôt, parce que il y a quand même un autre roman Clone Wars qui est sorti depuis, et on va vous en parler un petit peu plus tard. Comme sujet secondaire, ça va être, pour Sestus Deception, bien sûr, il y a l'entrevue avec Stephen Barnes que l'on va traduire immédiatement après, donc c'est quand même une heure d'entrevue, plus une traduction qui devrait prendre une demi-heure environ, maximum. Et puis, comme sujet secondaire, enfin, ça va faire partie de la chronique événement, c'est qu'on va écouter des commentaires qui ont été enregistrés à la convention Star Days 2 d'il y a un mois déjà. Donc, on va pouvoir vous faire écouter tout ça. Ensuite, comme d'habitude, les chroniques hyperespace, on a beaucoup de choses à discuter, n'est-ce pas?
Pas mal. Même si on fait juste les deux dernières semaines,
exactement.
Plutôt que le mot complet, là.
Exactement. Et puis, quelques critiques de films, la chronique événement à la toute fin, évidemment. Et puis, si vous voulez nous rejoindre, vous nous avez votre numéro de téléphone à l'usager, Hotmail, MSN Messenger, SW en direct, à commercial, hotmail.com, SW en direct, à commercial, hotmail.com, ou par email à studio, à commercial, SW en direct.com, studio, à commercial, SW en direct.com. Vous pouvez nous voir par la merveilleuse webcam que j'ai hâte de changer.
Merveilleuse webcam.
Ouais, c'est ça. Vous allez sur le site officiel www.swendirect.com et vous cliquez sur chat. Et pour nous écouter, ben, je pense que si vous nous entendez, c'est que vous nous écoutez, donc vous savez comment faire. Et il y a aussi la salle de chat. Vous cliquez sur le mot chat du menu principal du site swendirect.com. Alors voilà. On commence immédiatement avec les chroniques des films King Arthur, Spider-Man 2 et iRobot. Je vais commencer. iRobot, disons.
Go.
Vu que j'ai déjà écrit quelque chose, je vais carrément vous le lire, ça va aller plus vite. N'est-ce pas? Ok, en gros, mais j'ai bien aimé ce film étant vedette Will Smith. En gros, c'est l'histoire du détective Spooner joué par Will Smith qui n'apprécie pas nécessairement la technologie. Je vous dis pas vraiment pourquoi, vous le verrez dans le film. Il est guidé vers une investigation où un robot aurait tué son créateur, contredisant une des trois règles de la programmation. Soit qu'un robot ne fera jamais du mal à un humain, c'est cela. Éventuellement, nous découvrons que, le fond de l'histoire au moment où les robots débutent une révolution contre l'humanité, un peu comme dans Animatrix, si on peut comparer à ça. Évidemment, l'histoire se termine bien, mais il y a quand même des leçons à en tirer. Je vais juste baisser le volume un petit peu. Et voilà. Je n'y ai pas tout vu les subtilités et nuances n'ayant pas lu l'histoire originale d'Asimov, mais ça n'a pas affecté le plaisir que j'ai eu à voir ce film-là. Je suis un vendu des blockbusters américains car j'aime beaucoup l'action et les effets spéciaux. iRobot en contient amplement des poursuites à haute vitesse, des échanges de tirs, des plans de caméra qui tournoient autour du sujet. Sont toutes des choses que j'apprécie. Il ne faut pas oublier l'humour, bien sûr, qui détend l'atmosphère d'un film où l'histoire est très sérieuse et où elle nous fait réfléchir. Évidemment, Will Smith est bon pour faire des petites blagues ici et là, comme dans tous ses films, bien entendu. D'ailleurs, si vous avez vu les deux épisodes du DVD Animatrix où l'on raconte comment les robots ont pris le contrôle de la planète, vous y verrez d'énormes similitudes. The Matrix étant aussi un dérivé des histoires d'Asimov, tout comme iRobot, qui est une adaptation américaine du roman du même nom. Même les robots du film sont presque identiques à ceux de Animatrix. Les acteurs jouent bien leur rôle. Will Smith, qui joue l'agent Del Spooner dans son rôle traditionnel d'homme d'action à la Independence Day ou Bad Boys. Et Bridget Monaghan, qui joue le rôle de Dr. Susan Calvin, jouait parfaitement son rôle de scientifique froide qui réalisera qu'elle avait tort dans ses allusions de perfection des robots. Je m'en voudrais d'oublier un des personnages principaux, le robot Sonny, qui est très bien joué par Alan Tudyk, de la même façon que Andy Serkis a joué Gollum dans Lord of the Rings, sans toutefois approcher la performance de ce dernier. Il ne gagnera jamais de prix dans son rôle, mais il est efficace et même ses mouvements et son visage sont camouflés par du CGI. Vous pourrez aussi remarquer les trois compagnies en vedette qui ont payé pour voir leur marque à l'écran. C'est même beaucoup trop évident, je dirais. La marque de voiture Audi, qui est très belle d'ailleurs, la voiture. Les espadrilles Converse et puis les produits électroniques JVC sont assez en évidence. Vous allez être très surpris du product placement pas trop subtil. Donc moi je donne 7.5 sur 10 à ce film là
voilà. En voyant juste en entendant le nom quand même du robot Sony
ouais. Mais ça compétit avec JVC,
c'est
qui
ça.
Est un des commanditaires principaux quand même, t'sais. Alors Maintenant, King Arthur, tu l'as pas vu non plus?
Je l'ai pas vu non plus. Bon, je te laisse continuer ou on fait...
Je continue.
Continue.
critique du King Arthur maintenant. Contrairement à ce que plusieurs critiques disent, j'ai énormément aimé ce film. Je ne sais pas pourquoi sur quoi il se basait pour dire que le film était mauvais. Probablement des accros de la version littéraire de la légende d'Arthur. Enfin, King Arthur n'a absolument rien de comparable au roman. Si publicisé, lu et vu dans différentes versions au cinéma, et ça fait du bien. Les seules choses semblables sont les personnages principaux, le fait que ça se passe en Angleterre, et une certaine épée nommée Excalibur. Tout le reste est complètement différent. Au début du film, on vous explique par un texte à l'écran que, selon les chercheurs, la légende du roi Arthur est basée sur une personne qui a existé, mais non pas à l'époque médiévale, mais 1000 ans auparavant, soit lors du déclin de l'Empire romain et lors de la reprise de l'Europe par les Saxons. Arthur, en fait, est un commandant de l'Empire romain et dirige une équipe de chevaliers, tous issus de fils de pays et territoires conquis par les Romains. Arthur aussi est un de ses fils né en terre anglaise. Donc, les Romains utilisaient les pays conquis puis prenaient les fils en âge mûr pour recruter dans l'armée. L'équipe de King Arthur est renommée pour leur efficacité lors de différentes missions, un genre de Navy SEAL, si on peut dire. Donc, ils sont envoyés dans des missions difficiles, etc. Et puis, l'histoire se déroule au moment où Arthur et son bataillon viennent de terminer leur service de 15 ans pour l'Empire romain. Donc, après 15 ans, ils reçoivent un papier de Rome comme de quoi ils sont libres, ils ont fait leur service. Un prêtre de Rome leur ordonne une dernière mission avant qu'ils soient libérés de leur service de Rome. Évidemment, c'est la mission la plus difficile de leur vie. Récupérer le fils d'un noble romain considéré par Rome comme le prochain pape. Et il faut qu'il le ramène en sécurité. Le hic, c'est que le domaine de ce noble en question est en plein territoire ennemi depuis le début de l'invasion. Arthur annonce la mauvaise nouvelle à sa troupe qui avait déjà commencé à fêter leur retraite. Ils sont au bar, puis Arthur dit « Sorry, boys, il faut qu'on reparte pour la mission la plus difficile de notre vie. »
Saving Private Ryan.
Ouais, c'est ça.
1602.
C'est ça. Complètement dégoûté de la situation, les chevaliers acceptent de faire la mission car ils ont confiance en leur commandant, qui est Arthur. Et l'aventure commence. Je ne vous la raconterai pas, mais je peux vous dire qu'Arthur ramènera le fils du noble et qu'il y aura de bons combats contre les Saxons. Surveillez la sublime bataille entre les chevaliers d'Arthur et Guinevere contre un bataillon de Saxons sur un lac congelé. Vraiment cool. C'est une image que je garde, en tête aussi. C'est Arthur et ses chevaliers au sommet d'une colline avant l'affront final, chacun vêtu de l'armure de leur pays d'origine, vu qu'ils sont des fils de pays conquis par les Romains. T'as Arthur qui est en armure romaine, mais t'as plusieurs chevaliers, t'as des armures plus à la Conan barbare, t'sais, des armures plus orientales, plus Moyen-Orient, etc. Puis t'es vois toutes alignées, prêtes au combat avec leurs armures de leur pays d'origine. Ne vous attendez pas à voir de la magie, car il n'y en a pas. Ce film se veut une dramatisation réaliste de ce qu'aurait pu être la vraie histoire d'Arthur. Oui, Merlin est dans le film, mais il est un chef de tribu que l'on voit à moins de 5 minutes au total. Excalibur est aussi présent dans le film. C'est la lame du père d'Arthur. Mais Arthur ne l'a pas retiré d'une pierre, mais de la tombe de son père. Il était planté dans la tombe de son père. Mais dans la terre, et non dans, dans une roche. Il y a aussi la table ronde, pour ceux qui se demandent si elle a la table ronde. Oui, elle a la table ronde. Ensuite, une chose intéressante, c'est que l'on montre le traitement et la torture que font les Romains aux non-catholiques. Et tout cela au nom de Dieu. Arthur s'en rend vraiment compte au cours de l'histoire, et ça le dégoûte de travailler pour les Romains. Surtout que les gens qu'il voit se faire maltraiter sont de la même origine que lui, des Anglais. Lui, c'est un fils d'Anglais, dans le fond, puis il voit des Anglais se faire torturer. Ce n'est pas un grand film côté dialogue et acting, sauf une scène émotionnelle que j'ai bien aimée entre Arthur et Lancelot, dans les tables avant de partir pour la dernière mission. Les effets spéciaux sont en quantité raisonnable, mais ne sont pas nécessairement super évidents. Les paysages sont incroyables. L'Angleterre tout craché avec sa pluie, ses nuages, sa brume et même sa neige. On a vraiment l'impression d'être témoin d'un événement historique. C'est ce que j'aime dans ce film. C'est ce que j'aime dans ce film-là, le côté historique. La série solutionnée, la musique incroyable de Hans Zimmer, celui qui a écrit la musique de Gladiator et de La Samouraï, qui rajoute une ambiance historique au film aussi. Le gros défaut du film, et qui va probablement lui nuire au box-office, c'est sa bande-annonce, très ordinaire, voire médiocre, qui montre seulement l'action. Elle aurait dû aussi montrer le côté humain des personnages, la camaraderie entre les chevaliers, le choc des cultures et un peuple qui se bat pour garder ses terres. Pour ma part, c'est un très bon film et je le conseille à tous. 8.5 sur 10.
Fait que dans le fond, c'est un mélange entre Saving Private Ryan, un documentaire historique, et puis Astérix et Obélix.
Ouais. C'est, il faut le voir, c'est différent. C'est absolument pas comme un film d'Arthur que d'une différente version qu'il y a eu sur Internet. Là. Vraiment pas pareil. Et maintenant, Spider-Man 2, moi, je vais te laisser y aller pour Spider-Man.
Et Spider-Man 2, oui, mesdames et messieurs, finalement sorti au box-office. Je sais pas s'il a pété des records ou pas.
Ouais, il est rendu à 300 millions et plus. Là.
Donc,
c'est assez... Tchitching!
Ça a rapporté beaucoup d'argent au jeune Tobey Maguire, encore une fois. Beaucoup mieux que le premier film, selon moi. On voit la continuité qui se débute dès le générique du début du film.
Oui, c'est très bien présenté.
On plonge dans l'action du premier film jusqu'au début du second, dans le fond. Et
c'est fait sous forme de dessin animé à l'écran.
Ouais. Et puis finalement, c'est ça, on arrive dans le deuxième film où Peter jongle encore avec sa double identité de Spider-Man. Mm-hmm. Et tout au long du film, on le voit qui se promène avec ce problème d'identité-là jusqu'à ce qu'il décide de le résoudre. Mais pour se rendre compte que c'était peut-être pas la meilleure des idées. Donc... il retourne.
Il y a un trop grand pouvoir et avec les grands pouvoirs viennent les grandes responsabilités.
Exactement.
C'est bien mon oncle.
Donc voilà. Il a justement.
Bonne scène d'action. Les effets spéciaux sont beaucoup mieux que le premier, je dirais.
Beaucoup, beaucoup mieux que le premier.
Ça paraît pas autant que c'est.
L'histoire
se
tient très bien aussi tout au long du film, sauf peut-être le rythme dans lequel l'histoire se déroule qui monte et descend
c'est
sans cesse.
Hein.
Ou sinon qui va vraiment juste être. Très lent à un instant et puis beaucoup plus rapide à un autre.
Il y a beaucoup de références à la bande dessinée en tant que telle. C'est ouais. Ce qu'on m'a dit parce que je connaissais pas le dessin animé. Le dessin animé, oui, mais pas la bande dessinée. Donc, on voit que le professeur de Peter Parker, je me souviens plus du nom, peut être un futur méchant, le lézard. T'as le fils, évidemment, de...
Évidemment, qui nous donne...
Celui qui faisait le Green Goblin.
Qui nous donne le troisième Spider-Man avec le Hobgoblin.
Puis il y aurait le fils de Jamie Jamerson, l'astronaute, qui serait Wolfman, selon ce qu'on m'a dit aussi.
Okay.
Donc, ça fait trois méchants possibles. Donc, lequel, tant qu'ils ne sont pas les trois en même temps dans le prochain film.
On va espérer que non, hein.
Donc, Spider-Man, si vous l'avez pas vu, ça me surprendrait, mais si vous l'avez pas vu, allez courir voir ça. C'est à voir uniquement sur grand écran, pratiquement, là, vraiment, pour les effets, etc.
Ça vaut la peine d'être vu au grand écran.
Exactement. Donc, on va aller à la pause musicale, sauf que avant d'écouter Optimistic de Radiohead, je vais vous faire entendre ça va être en exclusivité, c'est le commercial au complet. Un commercial de Star Wars en direct pour la version anglophone que l'on a faite, qu'on va aussi faire jouer en première ce soir à l'émission anglaise, mais on va vous donner un aperçu quand même, car c'est un très beau travail de Raven avec les voix de Sean Crosby. Avec les voix de Sean Crosby, qui est un voice actor, un acteur de voix, je sais pas comment qu'on dit, un acteur vocal. Qui fait beaucoup de radio drama aux États-Unis. Donc, on va vous faire jouer ça. Et on revient après la pause à Star Wars en direct, la voix de la communauté francophone de Star Wars.
My Lord.
Yes, Captain.
We've intercepted a rebel broadcast. Here it is.
And welcome to Star Wars Sound Direct, the voice of Star Wars fandom. Hi, everybody. This is Will Nita, as accompanied by the...
Rebel scum. They are in this system. I will deal with them myself.
The Emperor himself has requested your presence about this matter.
Prepare my shuttle.
Yes, my lord.
What is thy bidding, my master?
There is a great disturbance on the internet.
I have felt it. The show is Star Wars on Direct.
Yes, the voice of Star Wars fandom. Can we communicate to all the Star Wars fans through this show?
Not yet, my master. Some fans have never heard the show.
They will. It is inevitable. We can use the Force to make these rebel fans tune in live and then take control of Star Wars fandom.
They will listen to Star Wars on Direct or be destroyed, my master.
Good, good. Everything is proceeding as I have foreseen.
Thank you.
Toy Palace est le seul arrêt pour vos produits dérivés de Star Wars. Vous y retrouverez toutes les collections Hasbro de Power of the Force 2 jusqu'à la récente collection Original Trilogy, ainsi que de nombreux produits d'autres licenciés Star Wars tels que Atacus, Master Replica, Code 3, Gentle Giant. Branchez-vous et faites l'expérience de l'achat en ligne chez Toy Palace, le numéro 1 d'Europe pour les produits dérivés de Star Wars. www.toy-palace.com.
Legends Action Figures, l'endroit par excellence au Canada pour vos figurines et produits dérivés de Star Wars. www.legendsactionfigures.com.
Chez SimpleNet, vous obtiendrez pour un coût très raisonnable une vitrine publicitaire pour votre compagnie, un site web créé pour vous sur mesure par notre équipe de professionnels ou tout simplement un espace pour héberger votre site personnel. Les amateurs de jeux en ligne ne sont pas oubliés. Nous pouvons vous offrir des forfaits de bande passante très intéressants, de même que des solutions de serveurs préconfigurés clés en main. Rejoignez-nous au www.simple-net.ca.
Hello, this is Paul Enns, director of Lucas Online, and you're listening to Star Wars on Direct.
Et re-bienvenue à Star Wars en direct, la voix de la communauté francophone de Star Wars.
Oups.
Oui, j'espère que vous avez... Mais ils l'ont probablement pas entendu. À quoi c'est en mono pour une diffusée.
D'accord.
Donc, re-bienvenue à Star Wars en direct, la voix de la communauté francophone de Star Wars. Vous écoutez Radiohead avec la chanson Optimistic. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui se sont déroulées... au sujet de l'épisode 3, n'est-ce pas?
Je suis en train de regarder une image Null Vision, d'ailleurs, que je n'avais pas eu le temps de voir au courant des deux dernières semaines.
Exactement. Donc, comment ça fonctionne, la chronique hyperespace?
Alors, la chronique hyperespace, c'est très simple. On vous dit tous les spoilers des quelques dernières semaines sur Star Wars épisode 3. Principalement, ça dure... on va dire 15 minutes et on va rajouter des commentaires par rapport à tout ce qui s'est passé. Et très simplement, vous n'avez qu'à baisser votre volume pendant les 15 prochaines minutes à partir du moment où vous entendez l'introduction de la chronique hyperespace. On vous demande évidemment de ne pas discuter de spoilers dans les forums qui ne sont pas dédiés à cette cause. On vous demande aussi de ne pas discuter des spoilers dans la première salle du chat de StarWarsEnDirect.com. Vous pouvez le faire dans My Room 1 si vous avez quelques questions ou des spoilers que ce soit.
Oups.
Alors,
continue.
C'est cela. Alors, non, en fait, c'était un bon timing.
Ah ouais?
Parce qu'on va commencer la chronique hyperespace et on vous revoit dans 15 minutes ceux qui ne désirent pas avoir de spoilers.
Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mom!
All right, stand by.
Cette chronique est une présentation de Star Wars en direct.
Eh bien, re-bienvenue à Star Wars en direct sur la chronique hyperespace. Alors, premièrement, le sixième documentaire web Video Village est maintenant disponible pour tous. Ce merveilleux documentaire qui vous fera envier tous les cinémas maison du monde, je crois. Il y a des nouvelles images. Alors, on va commencer par les Null Vision. Alors, la plus récente est le Diplomatic Cruiser Corridor, qui est en fait le corridor du Tantive IV, tel qu'on le voit dans A New Hope, celui par lequel Darth Vader invasionne le vaisseau. Ensuite, l'avant-dernière, c'est Coruscant Bail's Speeder. Alors, c'est tout filmé devant des écrans verts. On voit Bail Organa qui est dans un speeder qui est en fait c'est la scène où Bail se sauve de quelque danger que ce soit. Donc on a bien hâte de voir ce qu'est ce danger. Trade Federation Cruiser, le bridge, en fait c'est le pont d'un vaisseau de la Fédération du Commerce, qui était très intéressant, avec même le capitaine qui était assis dans son
cockpit
de pilotage.
Okay.
Donc, c'est une très belle image à regarder, qui donne quand même beaucoup de détails sur le pont du vaisseau de la Fédération du Commerce. Et évidemment, la cinquième, qui était le premier plateau de tournage Revolve, qui est un plateau qui tourne sur lui-même, utilisé pour des scènes d'action où les acteurs se font brasser. Ça ajoute un peu à l'effet réel, pas simplement des gens qui se balancent d'un côté.
Comme dans le temps des vieux films de science-fiction.
Ouais, ou ben même comme dans très récemment, dans une galaxie près de chez vous.
Ok, ouais, c'est vrai. Ouais.
Ensuite, il y a évidemment les Before the Helmet, les superbes images avant le casque. Pourquoi ils ont appelé avant le casque? Je trouve ça drôle.
Avant que Darth Vader devienne Vader.
Ouais, non.
Avant qu'Anakin devienne Darth Vader.
Avant le casque. Ouais. Donc, l'une des
images... C'est pas Behind the Helmet?
Non, c'est before the Helmet.
Okay.
Non, ça, c'était Behind. On verrait tout le temps la vision avec deux yeux. Ça serait quand même très drôle. Donc, l'une des dernières images montre le nouveau Jedi Starfighter. En fait, c'est la carlingue du Jedi Starfighter qui ressemble énormément à la carlingue du TIE Fighter. On voit le cockpit et deux ailes qui partent de chaque côté. Depuis cette image,
c'est comme un Jedi,
les images complètes du nouveau Jedi Starfighter.
C'est comme un Jedi Starfighter traditionnel en triangle, sauf que le devant est ouvert un peu comme le Faucon Millennium.
Ouais.
Et puis les ailes, ils se séparent un peu comme le jouet. Ils se séparent, mais plus grosses,
ben,
pour faire comme des ailes de taille un peu.
Comme le Saturn Infiltrator,
c'est ça.
Dans le fond.
Ouais.
La nouvelle image de Before the Helmet, une des autres qui est sortie dans les dernières semaines, c'est évidemment celle où on voit Obi-Wan qui discute avec Yoda, qui est assis sur une chaise, avec
une des premières
le puppet
images terminées.
Ouais. Ça se passerait dans le Tentive 4, justement, c'est discussing grave uncertainties. Alors, qu'est-ce qu'on va faire
avec les enfants,
avec les jumeaux, j'ai l'impression. Une autre, c'était qui est sortie il y a 3 semaines, c'est On an Angry Newt. C'est un plan rapproché du masque de Newt Gunray qui est très colérique.
Ouais.
On ne sait pas pourquoi, mais il est fâché.
Ouais.
Puis évidemment,
on peut supposer pourquoi, mais
ouais. Évidemment, il y a un mois, c'était l'aide de Wookiee Win. Alors on voit Tarful.
Ouais, j'ai aucune idée du nom.
On voit un gros Wookiee, un très grand Wookiee que vous voulez le laisser gagner, croyez-moi, ça vous tente vraiment pas de vous battre contre lui. Et pour continuer, alors le site ZapTweet a fait une entrevue avec Natalie Portman dans laquelle elle parle du tournage additionnel pour l'épisode 3. Elle n'est pas certaine de ce qui va être filmé le mois prochain, mais elle mentionne que c'est commun pour un film avec beaucoup d'effets visuels comme Star Wars d'avoir des sessions de tournage additionnelles. Je sais pas, ça pourrait être un plan où je marche, ou un plan de mes mains, ou ça pourrait être une toute nouvelle scène, dit Portman en riant. Alors je serais aussi surprise que vous. Jimmy Smith, qui lui était l'invité de Conan O'Brien, a parlé brièvement d'épisode 3. Jimmy a mentionné que son personnage a une séquence d'action, mais pas de combat au sabre laser. Il va y avoir un speeder et un pistolet. Jimmy a aussi mentionné que la première chose que George Lucas lui a dite lorsqu'il l'a appelé pour lui offrir le rôle est « Non, tu n'utiliseras pas de sabre laser. » Donc, c'est quand même triste. Je pense que j'aurais dit non, moi, s'il m'avait dit « Tu n'utilises pas de sabre laser. »
Bon.
Ah non, j'aurais dit « Je vais faire un background quelque chose. » Pour terminer, le site Jedi Mania a fait une entrevue avec l'actrice Caroline de Souza Correa, qui joue le rôle de l'assistante de Bail Organa. Mon personnage est une assistante de Bail, donc la majorité des scènes de ces scènes sont avec Jimmy Smith. Je suis son assistante et son garde du corps. Mon devoir est de le protéger. Je suis toujours à ses côtés, surtout lorsque la sécurité est primordiale. Mais en dehors des studios, j'étais surtout avec Hayden Christensen, car il était hébergé pas très loin de moi, et nous avons presque le même âge. Caroline mentionne aussi qu'elle ne connaît pas le scénario du film. Les seules parties du scénario qu'elle a vues sont celles dans lesquelles son personnage se retrouve. Et on voit d'ailleurs que... On sait que Bail se sauve lui-même seul.
Donc on peut imaginer,
qu'elle va
mourir.
Elle va avoir un destin tragique. Ensuite, il y a eu beaucoup de... Il y a des nouvelles images, mais une nouvelle image du Jedi Starfighter, en fait, c'est même plus vrai parce que maintenant, ben...
Ils sont plus nouvelles.
Ils sont plus nouvelles, on les a tous vues. Alors, il y a beaucoup d'images...
C'est des images qui viennent du Insider, c'est ça?
Entre autres, oui. Il y a beaucoup de... Ben, justement, les nouvelles images de l'épisode 3, dont celles qui viennent de Insider, qui sont même en ligne sur StarWars.com pour dans la section Hyperspace, là, dans le, en étant le... Comment est-ce qu'ils ont appelé ça? Le supplément en ligne ouais. au Star Wars Insider numéro 67.
Et je me dis, pourquoi qu'ils envoient une version papier maintenant? T'sais? Oui, il y a plus d'articles, mais ils pourraient pratiquement tout le mettre en ligne.
C'est effectivement à se poser des questions. Peut-être que c'est vers ça qu'ils s'en vont.
Moi, je pense tout simplement, c'est parce que les images ont été en ligne avant. Et on dit, ouais, on est aussi bien des mettre en ligne nous aussi.
Exact.
Donc, ils ont fait un supplément pour...
Alors que... Rapide description de ces images-là. Il y a une image promotionnelle avec 7 Wookiees qui sont quand même assez... sont assez bâtis, les Wookiees. Là.
J'ai l'impression que Chewbacca, finalement, c'est un petit Meg.
Ouais.
Tu sais?
Et il y a juste 200 ans. Les autres, ils ont peut-être 500.
Ouais, c'est
pas.
Ça.
R2-D2 est dans le Jedi Starfighter d'Anakin. Et c'est drôle parce qu'on le voit, on voit que c'est le même fitting, entre guillemets, que pour les Y-Wing.
Y-Wing. Je trouve ça étrange, moi, parce que R2, il y a des pattes, là. Il y a ouais. un corps, mais ça doit être dépassé en dessus comme ça doit être incroyable.
Non, justement. Parce que la façon que l'aile est faite est en triangle.
Ouais.
Donc, il rentre juste là-dedans. Ce qui dépasse du haut, c'est tout ce qui dépasse de son corps.
Ouais, mais le reste en dessous, les roues et tout, ça doit dépasser pas mal en bas. En dessous, non?
Non, ça dépasse.
Parce qu'il n'est pas dans les ailes?
Ouais, il est dans les ailes. Mais l'aile est assez épaisse que le petit train rentre. C'est un peu aussi comme le X-Wing dans le fond. Où est-ce qu'il rentre à l'arrière du cockpit. Sauf que là, il rentre à gauche du cockpit.
Okay.
Ensuite, le Jedi Starfighter d'Obi-Wan où on voit R4 sur le vaisseau. Pauvre R4.
Sait son sort à R4.
Exact. On voit aussi d'autres couleurs différentes pour distinguer le vaisseau d'Anakin. Alors ça reconfirme ce qu'on avait dit il y a quelques semaines. Le vaisseau d'Anakin est jaune et celui d'Obi-Wan est rouge. Une image d'Anakin dans le couloir du Tentive 4. On sait que Anakin ne mettra probablement jamais les pieds dans le Tentive 4 dans l'épisode 3. Donc, simplement pour le remettre en place dans l'épisode 4, A New Hope.
Mm-hmm.
Quand justement il invasionne.
Invasionne.
Le Tentive 4. J'ai inventé un nouveau mot, j'en suis fier.
J'adore cette image-là.
Oui, elle est vraiment très belle. Anakin et Padmé qui s'embrassent. Alors, encore une fois, notre cher ami Hayden a eu la chance d'embrasser Natalie Portman. Obi-Wan, Yoda et Bail Organa à bord du Tentive 4. Alors, on les voit les...
Là, je crois qu'on vous parlait tout à l'heure.
Exactement, mais c'est...
Un autre angle.
Ils sont en train de discuter, justement, de choses graves, fort probablement. Mass Ameda et les gardes royaux de Palpatine. Ça, là, c'est vraiment ma préférée du set. On voit Mass Ameda... Et des gardes impériaux rouges qui se promènent. Puis on voit que le vent a tendance à attraper dans le costume des gardes impériaux. Donc, avec un peu de chance, on va peut-être voir ce qu'ils portent en dessous. Mais c'est vraiment une très belle photo. J'ai extrêmement hâte de les voir en action. Anakin, Obi-Wan et Palpatine à bord du croiseur séparatiste. Où on voit que d'ailleurs Palpatine a des menottes sur son trône. Donc, c'est probablement dans le début du film lorsqu'il va se faire sauver.
Mm-hmm.
Tian Madden et George Lucas, alors une simple petite photo qui nous montre George Lucas en train de diriger une scène avec Tian Madden qui est Bruce Spence.
Bruce Spence, c'est celui qui faisait le Train Man dans The Matrix, hein?
Fort possible. Un technicien applique du maquillage sur Ayla Secura. Trois images que l'on peut voir dans le documentaire web du Video Village, qui est George Eric McCollum qui regarde ses 3PO sur un écran plasma. La deuxième, c'est une scène entre Obi-Wan et Padmé. Et la troisième, mon Jimmy Smith qui discute de l'épisode 3. Ensuite, on a aussi un sénateur Quarren et Ayla Secura qui se rafraîchit. Ayla est tendue sur le sol avec son sabre laser dans sa main. Test de caméra avec Obi-Wan et Anakin dans l'appartement de Padmé. Un gros bowcaster de Wookiee, bref, une grosse arme.
Ouais, le fusil que Chewbacca a dans le fond.
Exact. Deux images visuelles Anakin Obi-Wan. Alors, ce dernier donne un coup de pied dans le ventre d'Anakin qui tombe par la suite. Un groupe de sénateurs dirigé par Palpatine et des techniciens qui aident Bruce Spence avec son costume de Tion Medon. On a aussi vu une image parce que c'était Comic-Con en fin de semaine, mesdames et messieurs.
Mais oui.
Et malheureusement, nous n'y étions pas, point, mais nous avions un envoyé spécial, donc soyez à l'écoute de l'émission ce soir pour avoir peut-être plus de détails.
Peut-être
sur
les commentaires de cette personne. Mais...
Exact. Ça. Donc, il y a eu beaucoup, il y a quand même eu des nouvelles bannières qui montraient les nouveaux Stormtroopers de l'épisode 3. Il y a eu des images comme celle, comme la couverture de Labyrinth of Evil et la couverture du roman de l'épisode 3 qui a été officiellement montré là-bas, ainsi que le titre officiel de l'épisode 3.
Et oui,
oui, mesdames et messieurs, Revenge of the Sith. C'est officiel.
Et on vous l'avait mentionné, bien entendu,
il y a quelques
en tant que rumeur.
Mais très franchement...
Tu vas encore manger tes souliers, toi?
Non, mais ça sent le Benta Poudou. Je parierais pas ce coup-là, mais ça sent le Benta Poudou. Est-ce qu'on peut s'attendre à une...
Non, moi, je suis sûr que c'est ça. Il y a des t-shirts, puis ils vendent des t-shirts avec ça. Moi, je suis sûr que c'est ça. Voyons donc.
Qui sait? Ils peuvent peut-être essayer de faire une espèce de marketing plot de la même façon qu'ils avaient fait pour Return of the Jedi. Mais très franchement, j'en doute. Et j'adore le titre, alors j'espère qu'il va rester. Revenge of the Sith, ça va
être... Atlas will have revenge.
Atlas will have revenge.
C'est comme...
Ça fit.
Ça décrit.
Il
n'y
a pas d'autres mots. Ça fit parfaitement.
Et d'ailleurs, il y a le vidéo qu'ils ont présenté à Comic-Con qui est disponible pour les membres du Hyperespace. Et on voit la fin des extraits de.
On voit quelques
tournages.
Tournage de...
Et puis, évidemment, la présentation Revenge of the Sith. J'imaginais la foule en train de crier comme des malades à Comic-Con quand ils ont montré ça.
Mais ça, en fait, je vois les images qui apparaissent. Là, tout le monde fait comme ouh, épisode 1, yeah, épisode 2, ouh. Puis là, ça continue. Là, il y a comme plus personne dit rien.
Silence.
Mais c'est vraiment un silence, là, mortuaire. Là, épisode 3, Revenge of the Sith. Là, ça crie. Là, tout le monde a dû crier. Là, ça devait être là, dans le top des décibels.
Exactement.
Le VU, il a failli péter dans la
face. C'est comme quand ils ont fait la présentation de Yoda. J'ai vu un extrait avec le son de la foule.
Et voilà.
Tout le monde était silence. Là, ils entendent la petite canne. Puis là, Yoda, aussitôt qu'ils ont vu Yoda, wouah!
C'est exactement ça. J'ai extrêmement hâte à l'épisode 3. Je pense que ça va crier.
Et à la Star Wars Celebration 3 aussi. J'imagine qu'ils vont montrer... une scène comme ça, peut-être on va voir en exclusivité les premières scènes avec Vader.
Ouais, il y a des chances.
Ils vont sûrement montrer un petit extrait du même style.
Alors, quelque chose qui a été quand même montré à Comic-Con en fin de semaine était les nouvelles cartes pour les figurines de l'épisode 3. Alors, on voit Vader qui va servir. Le casque de Vader, en fait, qui est la carte en arrière avec un peu de lave.
C'est comme regarder vers le bas.
C'est ça, avec un peu de lave. Ça forme
de la
avec Grievous sur à droite de la carte et
la bulle ovale, la bulle en forme de goutte ou je sais pas trop.
C'est une nouvelle bulle, c'est
pas carré.
C'est un tout nouveau concept pour les gens de Hasbro.
Moi, la seule chose que je peux dire, c'est que
ça va être le fun pour déménager ces petites figurines effectivement.
Les cartes sont comme pas ergonomiquement bien organisées.
Donc, c'est ce qui
conclut
notre merveilleuse Crick Hyperespace.
Ok, je l'indique dans le chat. Spoiler off. Et voilà. Donc, nous, on va aller à petite transition. Et ensuite, on vous parle de tout ce qui a été discuté au cours des deux dernières semaines. Tout ce qui n'a pas rapport à Star Wars épisode 3. Et on est de retour avec les nouvelles diverses. Bon, je vais commencer par tout ce qui est littérature, parce qu'il y a eu beaucoup de développement là-dessus. Donc, tout récemment, on annonce des nouveaux romans pour Michael Reeves, celui qu'on va avoir en entrevue le 8 août. Pour notre émission en anglais, donc probablement le 15 pour l'émission en français. On va vous rappeler ça un peu plus tard. Aaron Alston et Troy Denning. Donc, vendredi dernier au Comic-Con, Sue Rostini, Randy Stradley, et Shelley Shapiro et Jan Dursema ont fait une présentation sur les comics et les romans à venir dans l'univers Star Wars. Côté roman, Sue Rostini a indiqué que le roman d'épisode 3 va développer plus en détail certains éléments du film, par exemple lorsqu'Anakin sera passé au côté obscur de la Force. Matthew Stover, l'auteur du roman de l'épisode 3, pourra plus élaborer sur les sentiments d'Anakin. Shelley Shapiro a confirmé que Michael Reeves va écrire un roman se déroulant après l'épisode 3, même si la guerre des clones est terminée. Il reste encore quelques conséquences de la guerre et des Jedi à éliminer. Intéressant, purge des Jedi. Ensuite, Sue Rostini a donné plus de détails sur la série de 9 livres qui se dérouleront après la série New Jedi Order. Cette série se déroulera entre 5 et 10 ans après NGO. Donc, enfin, on va voir probablement un jeune Ben Skywalker adolescent.
Encore des enfants.
Encore très jeune, malheureusement, mais ça va être sûrement concentré avec les enfants des solos. Trois auteurs vont écrire la série seulement. Ils vont chacun écrire un hardcover et deux paperbacks. Ça, c'est une bonne idée parce que il n'y aura pas de conflit entre les auteurs. Donc, ils vont être les trois sur tout le projet et puis chacun va avoir une partie à écrire. Donc, ils vont pouvoir se référencer entre eux trois, toujours. Donc, ça va rester...
Ça va suivre
plus que certaines parties.
Ça va être
plus constant, moins d'erreurs. Deux des auteurs ont été sélectionnés pour cette série-là. Il s'agit de Aaron Alston, qui a écrit plusieurs romans de la série X-Wing, surtout ceux qui concernent Raid Squadron, l'escadron Spectre, en français. Et le fameux Troy Denning. On va pouvoir encore l'interviewer pour maintes et maintes... romans, je suis très heureux de ça. Les romans de Denning s'ajoutent à sa trilogie post-NGO qui paraîtra l'an prochain. Le troisième auteur devrait être annoncé dans les prochaines semaines. Maintenant, un avant-goût sur les livres de l'épisode 3. Bon, les concepts visuels incroyables du dernier film Star Wars ainsi que l'histoire de la conception de l'épisode 3 seront des sujets de deux livres de Delruy l'an prochain. Delruy a déjà publié ce type de livre pour les autres films Star Wars, mais j'aime auparavant ces livres ont été aussi rapprochés pour donner au lecteur un portrait intime de la conception du film. Pour l'épisode 3, l'aventure derrière la caméra a été méticuleusement analysée. L'auteur J.W. Ringsler a eu accès au processus entier de production qui se déroulera dans le livre The Art of Star Wars Episode 3. Ce livre contient les dessins concepts les plus incroyables créés par le département artistique ainsi que le scénario original de l'épisode 3 écrit par George Lucas. Les artistes de l'épisode 3 sont en vedette dans ce livre aux côtés de leurs costumes, personnages, technologies, scénarimages ainsi que les peintures de production. Ça, c'est le livre à vous procurer absolument. Moi, je lis celui de Art of Episode 2. C'est vraiment hallucinant. C'est un livre qui coûte assez dispendieux, $58 environ. Mais vous avez le script original avant les coupures. Donc, vous avez les coupures sont incluses dans le script. Les images sont incroyables, des hautes définitions, etc. C'est vraiment à se procurer, même si ça coûte cher. Il y a aussi Star Wars The Making of Episode 3, qui est un livre qui raconte la production entière du film, les premières explorations du département artistique jusqu'à l'évolution du scénario. Du début de la photographie principale à Sydney jusqu'à la photographie additionnelle en Angleterre, en plus des effets visuels de Industrial Light and Magic. The Art of Star Wars Episode 3 et Star Wars The Making of Episode 3 sera disponible le 2 avril 2005. Ça, je trouve ça étrange parce que je pense que le 2 avril, c'est un samedi. Faudrait vérifier, mais ça serait étrange si ça serait ça. Maintenant, la série... Knights of the Old Republic a été remplacé. Je vous ai parlé il y a deux news de ça. que ça allait être une série post-NGO plutôt. Donc, la nouvelle originale était qu'on vous annonçait qu'après le prolongement du contrat de Delruy jusqu'en 2008, qu'il y aurait une série de 9 romans pour Jedi Knights of the Old Republic et qui serait située à partir de 2006. Évidemment, c'était un gros risque de la part de Delruy puisque cette période n'est pas la période la plus populaire. Eh bien, Sue Rostini a confirmé sur le forum officiel que cette série a été remplacée par une série se déroulant 35 ans après Star Wars A New Hope, car il y aura plus d'opportunités pour des histoires à cette période comparativement à la période de Knights of the Old Republic, qui est plus difficile à promouvoir parce qu'il n'y a pas de personnages connus. Évidemment, ouais. Des films, c'est ça que c'est moins vendeur, malheureusement. Lucas Book pense à une trilogie cependant. Ces romans vont traiter vont tâter le terrain pour être peut-être pour une éventuelle série dans le futur. Donc ils vont faire une trilogie dans l'époque de Knights of the Old Republic, voir si ça fonctionne bien. Si ça fonctionne bien, ils vont faire une série plus longue. C'est quand même une bonne nouvelle. C'est mieux d'y aller à tâtons pour pas perdre trop d'argent, évidemment. Un avant-goût de Labyrinth of Evil. Au début de 2005, Del Rey va publier le roman intitulé Star Wars Labyrinth of Evil, qui est lié directement aux événements choquants du début de l'épisode 3. Le synopsis va comme suit. Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker participent à leur dernière aventure ensemble avant les événements de l'épisode 3. C'est la première mission du prodige avec Obi-Wan en tant que chevalier Jedi. La guerre des clones tire à sa fin alors que les Jedi suivent des pistes qui peuvent amener à l'endroit où se trouve Dark Sidious, le responsable des événements qui assombrit la galaxie. Cependant, de telles recherches amènent les Jedi dans un labyrinthe de mensonges et une aventure explosive qui met en place l'épisode 3. Et si on se fie à la couverture, on peut imaginer que le général Grievous va être là-dedans, évidemment. Labyrinth of Evil est écrit, bien sûr, par l'excellent James Luceno et sera disponible le 25 janvier 2005. 2005, ça va nous coûter une beurrée d'argent. Le portefeuille va souffrir le martyr.
Je pensais pas, mais...
Avec la célébration...
Je pense que j'avais pas le choix que de voir à demander une autre carte de crédit.
Un autre prêt. Aller à la banque demander un prêt. Pourquoi voulez-vous un prêt, monsieur?
Bonjour, j'aimerais avoir 20 000 $ s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Vivre mon fanatisme Star Wars.
Refuser.
Non.
Maintenant, côté jeu vidéo, la date de sortie du jeu de l'épisode 3. À la Comic-Con à San Diego, Steve Sansweet a révélé la date de sortie du jeu de l'épisode 3. Ce sera 2 semaines avant la sortie du film, donc le 5 mai 2005. Plus de détails seront mis en ligne sur le site de LucasArts. Détails concernant les plateformes et autres informations en rapport au jeu. N'oubliez pas qu'un making-of du jeu sera disponible sur le DVD de la trilogie originale. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai complètement oublié de mettre dans mes nouvelles diverses, le DVD. Ensuite, République Commando, j'irai pas en détail dans le titre parce que c'est spoiler, mais une nouvelle vidéo de Republic Commando. Celui-ci présente en 9 minutes 40 secondes une bonne partie d'une mission sur planète de l'épisode 3. On peut y remarquer des choses très intéressantes telles que le général Grievous et aussi un garde du corps du général Grievous ainsi que son vaisseau. Donc, quand même des exclusivités, je vous suggère de le downloader, c'est assez intéressant comme vidéo. Aussi, on va en parler un petit peu plus tard, un nouveau concept de jeu que Steven Barnes nous a mentionné lors de l'entrevue. Donc, quand on va traduire l'entrevue tout à l'heure, on va vous en parler plus en détail. Je vais aller rapidement côté DVD. Il y a plusieurs images qui ont sorti. Là, j'y vois on the fly, comme on dit. Allez sur cyclan.net, vous allez voir des images des menus du DVD. Encore le même style que sur
épisode 1 et 2.
Allez voir aussi, il y a plusieurs captures d'écran sur des scènes qu'on verrait rajoutées. Donc on voit que ce serait Hayden Christensen qui serait le fantôme de à la fin de Return of the Jedi.
Car Anakin était le Jedi et non pas Vader.
Exactement. C'est à voir, toujours. On voit aussi une scène de célébration sur Naboo qui a été rajoutée, etc. Allez voir, il y a beaucoup d'images. Puis des comparaisons. On voit une image de la VHS comparativement au DVD. C'est assez flagrant, l'amélioration. Ils ont enlevé toutes les scratchs, toutes les égratignures digitalement dans des logiciels, j'imagine comme Photoshop, pour enlever tous les petites granules et les détails qui pouvaient être. Et puis, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire sur le DVD? Ça va être excellent. Pour ça, il va avoir le...
Surveiller la sortie au Québec, car l'Alliance impériale va probablement faire une apparition dans quelques magasins.
Exactement. Dans quelques magasins? Oui. Attention.
Et pour ajouter à ton 2 avril de tout à l'heure, alors le 2 avril 2005, c'est effectivement un samedi.
Étrange. Toulou. Ça veut dire que le mardi avant, toutes les boutiques vont les avoir reçues. Mais non mis en magasin. Il va falloir chercher avec nos contacts, voir si on peut pas avoir des choses un petit peu plus d'avance. Bon, côté fan film, à Comic-Con, il y avait les Fan Film Awards, les fan films officiels. Et les gagnants sont les Pioneers Award qui a été décerné à George Lucas in Love. Le Pioneer Award, c'est évidemment un film qui a aidé à l'avancement des fan-films Star Wars. Donc, George Lucas in Love a reçu ce prix. Le grand prix de Fan Film Awards, qui est choisi par George Lucas comme étant son film préféré et reçoit un chèque de 2000$, était Escape from Tatooine, film qui raconte l'histoire d'une des victimes du Sarlacc qui réussit à sortir avec le jetpack de Boba Fett. Il prend le Slave One et il part en hyperespace. Il arrive sur Terre, il s'écrase à Washington et puis... Vous verrez.
Allez le voir.
Allez le voir.
AtomFilms.com.
Exactement. Et meilleur film d'animation a été gagné par Andreas Peterson pour le film Wampa. C'est pas le meilleur film d'animation, mais c'est un film d'animation qui a été fait de façon traditionnelle à la main, avec des cellules. Donc, le travail qui a été mis là-dedans est absolument incroyable. L'histoire est pas très bonne, les graphismes sont pas très bons, mais probablement qu'il a gagné ce prix-là pour le travail ardu qu'il a fait. Donc il a gagné 500$ pour lui.
Ben, pour ceux qui se demandent justement comment et pourquoi le Wampa fait ces choses.
Ouais, c'est l'envers de la médaille.
C'est l'autre côté de la médaille.
Exactement. L'esprit de la communauté, le Spirit of Fandom Award, a été gagné par Wendy Woody pour le film 8 Minutes, qui est une parodie Star Wars de 24 heures chrono, comme on dirait en France.
Mm-hmm.
Et puis, ça raconte l'histoire de quelques fans qui se préparent à acheter des billets de l'épisode 3 en ligne pour être certain d'être à la première de minuit. Allez le voir, c'est assez intéressant. Et le choix de, en anglais, Audience Award, non, Fan Request.
C'est le Fandom Choice. Là.
Fandom Choice, ce qui est en fait le
Spirit of Fandom
c'est
Award.
Ça, non, ça c'était pour 8 Minutes. Mais Pink 5 Strike Back, Pink 5 qui était le gagnant de l'an dernier.
Audience Choice Award.
Audience Choice Award, c'est-à-dire le film qui était le plus apprécié sur le site d'Atom Films. Et Pink 5 Strikes Back qui raconte, c'est la suite de Pink 5 qui, après la bataille de Hoth, se retrouve sur Dagobah et elle rencontre Yoda. Et c'est tellement comique.
C'est la suite, puis c'est comme Spider-Man 2. Le deuxième est pas mal meilleur que
Exactement.
Le premier. Puis le premier, ben...
Mais c'est très humoristique, là. C'est vraiment...
Je sais même pas pourquoi il a gagné quelque chose le premier, sincèrement.
Mais c'est très drôle. On voit Yoda qui reçoit un sable laser sur le coco.
Ouais.
C'est assez humoristique. Et la meilleure comédie, qui est personnellement, pour moi, le meilleur film qui a été soumis à Atom Film, qui s'appelle Recruitment, qui est en fait une vidéocassette d'une vidéo d'embauche
pour l'Empire. Vidéo promotionnelle pour
l'Empire. C'est très humoristique. Allez absolument voir ça. Vous allez rire aux larmes. Ensuite, c'était les gagnants. On va peut-être éventuellement faire un fan film award, mais à Star Wars en direct, on va choisir nos propres choix, et puis avec tous ceux qui ont sur TheForce.net, etc. Donc, on va probablement faire ça avec CitClan.net. On vous tient au courant là-dessus. Aussi, le fan film L'Étape, le fan film québécois, le premier fan film québécois en français. Plus récemment, ils ont tout refait le tournage et ça s'est très bien déroulé. Une journée complète fut nécessaire pour un combat de 50 à 60 secondes. Le montage devrait être complété le 1er août, c'est-à-dire dans une semaine. Les effets 2D supplémentaires seront faits au mois d'août, donc le film devrait être lancé officiellement en début septembre. Il y a une deuxième affiche disponible aussi. Je vous suggère d'écouter notre prochaine émission car on va avoir les producteurs du fan film L'Étape sur nos ondes en téléphone, au téléphone. Donc, soyez présents lors de la prochaine émission de Star Wars en direct. Et puis aussi, le projet Star Wars Québec est un autre fan film québécois. Le titre officiel a été nommé. Il s'appelle maintenant L'Appel du Devoir. Donc, allez voir leur film qui est sur... je me suis même pas dit quelque chose production... lookupproduction.com. Donc allez voir toutes les images, toutes les informations sont là. Et puis on a parlé du fan club qui avait maintenant une facette du Star Wars Insider. Et d'ailleurs qui a annoncé qu'il allait avoir un comic sur le service Hyperspace maintenant. Il va y avoir un petit dessin animé, une bande dessinée.
Une bande dessinée.
Dessinée par un des fans de Star Wars très connu, supposément.
Scott Kurtz.
Ouais, quelque chose comme ça. Je me souviens pas exactement du nom.
De PvP Online. Ça serait très drôle.
Et voilà. Ça complète les nouvelles diverses. Donc, est-ce qu'on est prêt à la pause? Et oui, donc, on va l'écouter. Il faut que je me retrouve, évidemment. Il faut que je remonte dans ma liste. Et voilà, on va écouter Just Like Heaven du groupe The Cure. Je suis certain que Dark Jedi va être très heureux d'entendre cette chanson. Donc on revient après la pause de Star Wars dans la voix de la communauté francophone de Star Wars.
Toy Palace est le seul arrêt pour vos produits dérivés de Star Wars. Vous y retrouverez toutes les collections Hasbro de Power of the Force 2 jusqu'à la récente collection Original Trilogy, ainsi que de nombreux produits d'autres licenciés Star Wars tels que Atacus, Master Replica, Code 3, Gentle Giant. Branchez-vous et faites l'expérience de l'achat en ligne chez Toy Palace, le numéro 1 d'Europe pour les produits dérivés de Star Wars. www.toy-palace.com.
«
Legends Action Figures, l'endroit par excellence au Canada pour vos figurines et produits dérivés de Star Wars. www.legendsactionfigures.com.
Chez SimpleNet, vous obtiendrez pour un coût très raisonnable une vitrine publicitaire pour votre compagnie, un site web créé pour vous sur mesure par notre équipe de professionnels ou tout simplement un espace pour héberger votre site personnel. Les amateurs de jeux en ligne ne sont pas oubliés, nous pouvons vous offrir des forfaits de bande passante très intéressants, de même que des solutions de serveurs préconfigurés clés en main. Rejoignez-nous au www.simple-net.ca.
This is Stephen Barnes, author of the new Clone Wars Star Wars novel, The Cestus Deception, and you're listening to Star Wars on Direct.
Et bienvenue à Star Wars en direct, la voix de la communauté francophone de Star Wars. Maintenant, le temps du sujet principal. On est assez court en temps, donc je ne parlerai seulement de façon très très générale de l'histoire de Cestus Deception et je vais faire une critique que je vais traduire de ma critique anglophone. Je vais traduire on the fly, comme on dit. Donc, en gros, l'histoire de Cestus Deception. Il y a une compagnie qui produit des droïdes de sécurité, entre guillemets, sur la planète Ord Cestus. Et puis, la confédération qui est les séparatistes ont offert des contrats à la planète pour produire ces droïdes de sécurité-là. Et puis, eux les achètent en grande quantité et les modifient afin qu'ils deviennent des assassins de Jedi. D'ailleurs, les droïdes s'appellent les Jedi Hunter. Grâce à une microchip, une puce électronique, je sais pas comment dire microchip, ouais, c'est une puce électronique, aussi une bioélectronique, parce qu'il fonctionne aussi avec des cellules d'une créature, d'une espèce d'anguille de Ord Cestus qui est sensible à la force. Exactement. Donc, les droïdes sont capables d'anticiper les mouvements grâce à la force. Donc, c'est assez difficile à battre. Et puis, les séparatistes, évidemment, ça reste légal pour la République parce qu'ils construisent des droïdes de sécurité, mais les séparatistes les modifient. Du côté de la République, évidemment, ils veulent absolument stopper ça. C'est beaucoup trop dangereux. Des robots que les Jedi ont de la misère à se battre contre. Et puis, ils envoient Obi-Wan, Kit Fisto et quelques clone troopers aller essayer de négocier en premier lieu. Essayer de négocier pour empêcher Cestus de produire ces droïdes-là, même si c'est légalement
reconnu.
Et puis, ils s'en vont là. Et puis, là, c'est le problème, justement, c'est que les autorités de la planète, eux, ils veulent le bien de la galaxie. Cependant, s'ils arrêtent la production des droïdes, l'économie de la planète s'effondre. Donc, ils sont pris entre deux. Donc, Obi-Wan fait tout pour la solution diplomatique, même qu'il ment. Il fait à croire plein de choses. Il fait à croire un kidnapping. Comment je pourrais expliquer ça? Lisez le livre. C'est la seule chose que je vais vous dire.
C'est la meilleure chose à faire, je pense.
Cestus Deception, je vous dis, le gouvernement de la planète ment. Obi-Wan ment au gouvernement. Et puis, il y a d'autres choses, il y a d'autres mensonges aussi qui se traitent là-dessus. C'est Asajj Ventress qui est présent, que Obi-Wan ne se rend pas compte qu'elle est là avant la toute fin. Et puis, il y a un combat entre Asajj Ventress, d'ailleurs, et
Obi-Wan
qui se poursuit dans l'eau, même que Kit Fisto est blessé.
Oh.
Et puis, c'est très intéressant parce que tu as aussi un côté très humain au roman. C'est pas un roman que tout le monde va aimer parce que c'est pas un roman classique de Star Wars où est-ce que tu t'attendras à des grandes, grandes batailles de la guerre des clones. C'est vraiment concentré. Oui, t'as des batailles, mais c'est toutes des petites cellules d'action dans le roman. Mais il y a beaucoup, beaucoup de politique, puis il y a beaucoup, beaucoup de recherche interne. C'est comment je pourrais dire de... parce qu'on suit le deuxième personnage principal qui est un des clone troopers. Un des commandos, un des ARC troopers même. On découvre tout son intérêt. Il se questionne sur le fait qu'il est unique ou non, etc. Et puis, il y a une ex-copine de Jango Fett qui est dans cette histoire-là et qui essaie de remettre un peu d'humanité dans ce clone-là. En tout cas, c'est assez complexe. Et puis, finalement, le clone réussit à se considérer différent de ses frères, même s'il est quand même une armée de un, là, je veux dire, tous les clones sont pareils, etc.
An army of one.
Exactement. Et puis, à la fin, évidemment, ça ne fonctionne pas. Les discussions ne fonctionnent pas parce que Asajj aide le gouvernement sur place à montrer que Obi-Wan a menti.
Okay.
Donc, ils sont obligés de quitter la planète, mais ils ne quittent pas vraiment. Et puis, ils commencent à faire de la guérilla. Donc, ils font des petites cellules pendant le temps que Obi-Wan discutait avec les politiciens. Les quelques colons troupeurs sur place formaient des milices avec les habitants de la planète qui étaient contre le gouvernement, etc. Fait qu'ils ont fait une petite milice interne. Et puis, étant donné que les négociations n'ont pas fonctionné, ils sont partis en guérilla pour détruire les usines une par une. Éventuellement, bon, l'histoire mène que Nate, le clone trooper qui s'est découvert le fait qu'il est unique, découvre les coordonnées d'où sont cachés le gouvernement. Parce que, étant donné que les négociations n'ont pas fonctionné, Palpatine a envoyé un croiseur pour faire du bombardement.
OK.
Donc, il reste très peu de temps pour Obi-Wan pour réussir. Parce que, évidemment, s'il y a un bombardement, il y a beaucoup d'innocents qui vont mourir. Donc, Obi-Wan fait tout pour empêcher cela. Enfin, grâce à ce clone-là, qui a été ordonné, lui et tous les autres clone troopers, pour pas que le gouvernement sache qu'il y a une présence militaire de la République sur la planète, il dit de rester au campement. Donc, les clones disent d'accord, c'est un ordre du général, donc on reste au campement. Sauf celui qui a essayé de faire une unicité, a brisé le code du clone trooper pour aller, parce qu'il a pensé que oui, c'est une information importante que Obi-Wan ne savait pas. Et puis, si Obi-Wan l'aurait su, il nous aurait pas laissé au campement. Donc, il part seul, même contre les efforts de ses camarades, de l'empêcher d'y aller.
Qui disent non, vas-y.
Exactement. Et puis, ce rang-là, il réussit à détruire les membres du gouvernement corrompu. Et puis, bon, ça empêche le bombardement général. Et évidemment, toute la planète est rétablie. Ils font des contrats avec la République pour repartir l'économie, etc.
Donc, le clone trooper a sauvé...
Oui, il meurt parce que de la façon dont c'est que il se sert de sa position parce qu'il s'est blessé en allant au complexe où est-ce que les gouvernements sont. Mmh. Il s'est blessé, puis étant donné que bon, il est condamné, il donne ses coordonnées d'où est-ce qu'il est
pour qu'il bombarde
cet emplacement-là. Donc, il meurt avec le bombardement.
Oh!
Il s'est sacrifié.
Enfin.
Exactement. Donc, enfin, c'est un roman très intéressant. Si vous aimez la politique puis le développement de personnages, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, on voit beaucoup l'arrière-scène de la guerre. Comme j'ai dit, Sister Deception, c'est beaucoup de déception, de terrorisme, parce qu'ils font, ils font de la guérilla, donc ils font sauter des usines incognito avec des bombes, etc. Fait que il y a beaucoup de terrorisme, puis on voit les deux côtés du conflit, puis qu'est-ce que les gouvernements seraient prêts à faire pour sauver leur économie. Tu vois l'argent et la politique, comment ça mène le monde, vraiment. Bon, Sister Deception a aussi une histoire d'amour, comme je mentionnais, entre une ex-copine de Django et un des Clone Troopers. Il y a des belles scènes de combats, plus spécifiquement des combats rapprochés, sabre laser ou à main nue. C'est assez intéressant. Aussi, qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur ce roman-là? Vous pouvez voir comment qu'une planète aussi insignifiante peut avoir autant de pouvoir sur le tir le souk à la corde entre la République et les séparatistes. Parce que c'est un moyen important, c'est le fait des robots, là.
OK.
Donc, si tu vois qu'une petite planète insignifiante, comment elle peut avoir son importance. J'aurais aimé ça voir Anakin puis Dooku dans ce roman-là. Anakin, qu'on voit seulement au début du roman, qui revient d'une mission puis il est assigné à quelque chose d'autre. Et puis Dooku, qui, surprenamment, qui fait la page couverture du roman puis qu'on le voit pratiquement pas. On en fait mention dans le livre et c'est tout. Qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? Pour ma part, c'était un petit peu difficile à comprendre parfois parce qu'il y a beaucoup de politique sur différents paliers de gouvernement. Donc, c'était assez étrange à suivre, c'était assez mêlant, surtout quand c'était en anglais. Mais quand même, c'est intéressant quand même. Je vous le suggère, j'ai donné 7 sur 10, mais c'est pas tout le monde qui va aimer ça. Pour les romans de la guerre des clones, on voit que les auteurs prennent une autre direction de tous les autres romans Star Wars qui sont bataille spatiale, bataille de sabre, etc. C'est complètement différent d'NGO. C'est vraiment plus du développement puis de l'arrière-scène de la guerre des clones, plus que qu'est-ce qu'on est habitué de voir dans les autres romans. Alors, c'est tout. C'est ma critique, 7 sur 10. Attendez le paperback, selon moi. Vous allez pouvoir avoir le e-book de Hive qui l'accompagne. Donc, c'est...
Ça va donc être un meilleur...
Meilleur choix en paperback. Et parce que ça coûte assez dispendieux quand même, là. Un hardcover, là. Alors voilà, maintenant la prochaine étape, et on va discuter carrément de l'entrevue, on va vous partir l'entrevue, et après il va y avoir une pause musicale et on revient avec la traduction de l'entrevue de Stephen Barnes. Donc on revient à peu près dans une heure. Bonne écoute, tout le monde, ceux qui ne l'ont pas écouté. C'est assez intéressant au sujet de rester. Alors, c'est parti.
Hello, I'm Garrick Hagen, Big Star Collider from Star Wars, A New Hope. And you're listening to Star Wars on Direct.
And we are back on Star Wars on Direct, the voice of Star Wars fandom, with none other than Stephen Barnes.
Yeah, I'm going to do a little intro first.
Go ahead, my friend.
Go ahead. We have on the phone the author of the Clone War novel, The Sestus Deception, the e-book The Hive, and a lot of other fantasy novel and screenplay. Star Wars on Direct would like to welcome the Morpheus of the Star Wars authors, Stephen Barnes. Hi, Stephen. How do you like that title?
Oh, that's fine. I hadn't heard that one before.
Before we go into the book, can you tell us a little bit about yourself, your career, your hobbies, and...
I've been writing science fiction for almost 25 years.
Oh.
And I've really, you know, enjoyed my career in that sense. I've done a lot of work for television for shows like Outer Limits and Twilight Zone, Andromeda, and Stargate. But, you know, I've also written comic books. Basically, I've been able to be lucky enough to spend a lot of my life doing something that I love doing.
Yeah, and how did you end up a writer, screenwriter?
Well, I always loved writing. There wasn't anything else I ever loved more than writing, and I think I finally just came to a point of realizing that that was what I really wanted to do with my life, and decided that I would rather fail trying to be a writer than succeed at anything else, and that it was just important to go for being something in life that you really enjoyed. You know, something that you really love doing. You're going to spend all your life doing it.
Yeah.
Might as well enjoy it.
Okay. LifeWrite.com is your website. I've read through your 10-week lessons, and I was impressed on how simple those concepts could be applied. Can you explain what is life writing and how did you came up with the idea?
Well, life writing is the idea that Joseph Campbell's model of the hero's journey is also a model for how we can live our lives. I mean, George Lucas, when he wrote Star Wars, is very familiar with John Campbell's work, where he basically did a comparative analysis of myth patterns from around the world and found that there were 10 steps, that you know, a pattern that was recognizable and repeated. The way I phrase this is the 10 steps. One, the hero is confronted with a challenge. You know, Luke is told, you know, you must come and learn the ways of the Force. Second, the hero rejects the challenge, and that's Luke saying, you know, I have to stay and work with the moisture evaporators for Uncle Owen and Aunt Beru.
Mm-hmm.
You know, third is the hero is allowed to accept the challenge or forced to accept the challenge. That's, you know, Uncle Owen and Aunt Beru get slaughtered by the stormtroopers. You know, fourth step is you set out on the road of trials, and that would be the different places that Luke went to, you know,
mm-hmm.
Mos Eisley Cantina and the Death Star and Alderaan and so forth and so on. And then you meet allies and gain powers.
Mm-hmm.
That's the next step along the way, the fifth step along the way, and that would be, you know, Obi-Wan Kenobi and Princess Leia and R2-D2 and so forth and so on. And then you have your initial confrontation with evil, in which you are defeated. That's the sixth step. I think that's probably the moment where Ben is killed by Darth Vader,
yeah,
on the Death Star. You enter the Dark Night of the Soul. That's the moment where it feels like everything is lost. You'll never win.
Mm-hmm.
You can take a look at that as a scene in the trench on the Death Star, where it looks like all the other ships have been blown away and the computers aren't fast enough and so forth and so on.
Uh-huh.
The character takes the leap of faith, and leap of faith is always faith in one of a few, just a few things. Faith in a higher power, faith in yourself, or faith in your companion. In Star Wars, it was all three. You know, he trusted the Force, he trusted his own feelings, and Han Solo, you know, mm-hmm. dove in out of the sun to save him. You confront evil again, and this time evil is defeated. And the last step is a student becomes a teacher. Now, this one pattern repeats itself throughout all world fiction, throughout all time.
Mm-hmm.
And it just occurred to me that if you took a look at this pattern, what it really represented was the older people of the tribe, the village, talking to the younger people, saying, this is what your life is going to be like.
Mm-hmm.
So that when you look at it that way, you look at the way you have to organize your resources and your energy in order to be a hero in your own life.
Mm-hmm.
And so I saw this when I was teaching at UCLA some years ago,
mm-hmm.
and I actually did several different cassette tape series on the subject, mm-hmm. and taught a number of different workshops on the subject. And, you know, I teach a model of that still at a high level of sophistication now, I think.
Mm-hmm.
But I've been looking at that for a long time. I'm very much a believer in planning your life consciously. Mm-hmm.
I was very surprised myself when doing the research for this interview. When reading your lessons, I was constantly taking notes for one of my characters that I
good.
Wanted to write about. And
it obviously applies very easily to how to write.
Yeah.
It also applies to how to live. You know, but the lessons are there on my website for free. I like money as much as the next person, but this is just knowledge that belongs to all of humanity.
Yeah.
We're all living very similar lives, and the more we can reach out to each other and help each other, I think the better the world's going to be.
Yeah, I really like your lessons. I will try to find some time to explore more.
Well, we have all the time. Everybody has a number of hours in the day,
mm-hmm.
and it's all a matter of what your priorities are, what's important to you.
Yeah.
If, you know, you know what the most important things in your life are, those are the things you spend time doing. If you're not spending the time doing it, it's not really important to you.
Yeah, that's it. So, Sebastian?
You have to remember that Tim Zan also put this little lesson of life in his Valentine's Day tale.
Oh,
this
I don't remember.
You have to make time for
your
loves.
You have to make time, yeah.
Yeah, I mean, you know, from the time you wake up until the time you go to bed, you should spend your time doing those things that are closest to your heart.
Mm.
I mean, I think that George Lucas really touched a very serious vein with Star Wars, with conversations about the Jedi and the Force and what does it mean to be a hero in the world. It means having clarity of what's important to you. And I think that these books and movies and so forth appeal to people because he's speaking of living a higher level of life. I think that's what we all want to do. And even if it's just dressed up as a wonderful piece of entertainment, what's really going on there is he's saying, wake up. You can be a hero.
Yeah.
You know, young man, young woman, you know, embrace your life. You know, be a Jedi in your own little path. You know what I'm saying?
Yeah.
You're really coming through as the Morpheus now with the more and more lesson you give us. The review for Sestus Deception are very divided, good and bad. Are you the kind of author that reads review about the
review? I read reviews.
Yeah?
I didn't think that they were very divided. I saw some bad reviews, and that's fine.
Yeah.
You know, I saw a couple people who caught me on some things that I think were legitimate, a lot of things where I thought that they were saying some things that, you know, I disagree with. And, you know, lots of good reviews. I like those, too. I've never gotten reviews that were mostly bad.
Okay.
But, you know, it doesn't bother me if I get some bad reviews. People are intelligent consumers, and I want them to have opinions, and I want to hear what they're saying. But my ego isn't going to be crushed because somebody didn't like something I wrote.
You cannot satisfy everyone.
No, you can't. It's impossible to. And it's, you know, and it's not that they don't have legitimate complaints. You know, the way I'm going to learn is by finding out what works and what doesn't work.
Yeah.
And then, you know, asking myself, well, which of their complaints are legitimate? How can I be better? I mean, my question is always, how can I be better? How can I be better? How can I be better? How can I get more out of a day than I did yesterday? You know, how can I be a better writer? How can I be a better person? How can I be a better husband and father? Whatever, you know?
Yeah. Tell us your first Star Wars movie experience. How did you feel?
Oh, I loved it. I was like everybody else. I sat in that movie theater back in the 70s, and when the Starcruiser Destroyer went over my head, I lost it. I'd never seen anything like that before. Now, the thing that was so neat was that the coming attractions, I hadn't been terribly impressed by the first coming attractions of Star Wars I saw. They were scratchy, and the images weren't good, but when I actually saw it, I heard from people saying that it was just fantastic. I said, well, okay, I'll take a look at it. And I went to go see it, and it was simply marvelous. It was wonderful. I loved Star Wars when I saw it. I'm not, you know, there are no ifs, ands, or buts. I would have said the exact same thing before I ever wrote one of the books that has nothing to do with quoting my book. I loved that movie.
Yeah. How did you get the gig to write the Sestus Deception?
Well, I had worked with Betsy Mitchell. She'd been the editor, my editor over at Warner Aspect Books when I wrote Lion's Blood and Zulu Heart, alternate history novel that did a few years back. She went over to Random House and she wanted to work with me on a book set in prehistoric Africa about 30,000 years ago.
Okay.
And for all practical purposes, the Star Wars book was part of a package that we put together of projects that she wanted me to work on for one reason or another. And I looked at it and I asked myself a very serious question: did I think I could do a good job? Because I know myself well enough to know that I'm not going to try to do it unless I feel I can do at least a good job.
Mm-hmm.
And I wanted to do something that I thought could be kind of special. Is there something I can do here that hasn't been done before? And I decided that I would take a shot at it and that I would do my best to do a good and honorable job so that the fans would be happy, but also try to write something that I could please myself with, something I could look back on years from now and say, yeah, you know, I didn't write that for the money. I wrote that because I had a really good idea that I wanted to play with.
Yeah. It's not the first time you've written in a universe that wasn't yours. How is the Star Wars universe different from the others you've worked on?
Well, I mean, I've worked in the Star Trek universe. I wrote Far Beyond the Stars, a novelization of one of their episodes. I've written for television. You know, several times I've written for television. I was playing in other people's universes.
Mm-hmm.
So there are definitely different constraints. Your characters, the characters can't change. Any of the characters that are constant characters cannot change. And so there's a limit to what you can do to them before it's believable that they wouldn't change.
Mm-hmm.
I didn't want to deal with Anakin because at the time that I started writing it, nobody knew why he turned into Darth Vader.
Mm-hmm.
So I know now. But I didn't know at the time I started writing it. So not knowing it, I couldn't go into his head and tell you what he was thinking.
Yeah.
And that limits the amount of depth I can go into with a character. And for the kind of writer I am, that kills my fun. I've got to have fun. I've got to write something I'd want to read.
Yeah.
You know? And so I just didn't deal with Anakin. And I created some other characters besides Obi-Wan that I felt like I could put them through steeper character arcs.
Mm-hmm.
And, you know, I started thinking about that. I realized, yeah, there's some stuff here that I could do. You know, you have to figure out what your buttons are in terms of what gets you excited. And then you have to spend as much time doing that as possible. That's how you stay alive in life.
Yeah. What element of the story were suggested, imposed, or refused by Delry?
They didn't really refuse anything, although they're very, very smart people, and they know what it is that they need to do, and they're very businesslike, okay? They're a product. They're like a production line,
mm-hmm.
in the sense that it's producing really high-end sports cars.
Yeah.
It's still a product, but you put love to it. You want to look good and feel good, right?
Yeah.
So I told them, you know, things about my idea, and I spent 2 days at Skywalker Ranch batting the ideas around and, you know, talking to the people and so forth. And we put together the outline for something that looked to me like it could work. It was a Star Wars story, you know, it took place in the Star Wars universe. Mm-hmm. It took place far enough away from the main line of action that I could have a few... I could play with a few things, but also they wanted me to explore the politics of the situation, because they wanted to show how the Republic
yeah.
is being hurt by all of the internecine conflicts, all the politics. The politics are hurting the Republic. They wanted to show that, and so I had a chance to do some of that. And I had a chance to do some, there were some action scenes that I wanted to do. And there were some things that I wanted to say about the clone troopers I thought nobody had thought about. And, you know, a few different things like that. And in general, they were very supportive.
Yeah.
I'm very respectful of the mythology, and I feel that respect was returned.
Yeah. Did you had the chance to talk with other Clone Wars authors during writing?
Yeah, I did a little bit, not much.
Okay.
Steve Perry
yeah.
and Michael Reeves. Who've written in the universe are both friends. Yeah. And so we talked a bit.
That's cool. There's a lot of references to the Clone Wars timeline in The Sister's Deception.
Yeah.
How much time did you spend on research, and what material did you use?
Well, I had a bunch of the different timelines. I had a copy of the CD-ROM Star Wars Holocron.
Okay.
You know, which has everything in it. You know, and I read through it. I read a lot of the short stories, and I watched the movies over and over and over and over and over and over again. And you know, I kind of felt my way into it. I treated it as if I was a reporter writing a news story on an event that actually happened.
Mm-hmm.
You know, what I needed to do was simply dig out the truth. So there was a lot of research, but there was also sort of a lot of letting the fictional characters talk to me, okay. sort of interviewing them in my head.
Yeah. The Sister's Deception has 82 chapters, the most in any Star Wars novel. And some of the shortest also. Are you always using this style in your books, changing chapters with each scene?
No. It was just something that happened this time. Star Wars has a lot of short scenes. The movies have a lot of short
yeah.
scenes. And so I manipulated the length of the chapters partially to try to achieve a similar rhythm.
Okay. That's good. Now more into the story itself.
Okay.
Obi-Wan and Nate are the two main characters in The Sister's Deception.
Mm-hmm.
Can you briefly describe in what unusual situation you've put them in?
Well, what I basically said is that The Sister's Deception is about the creation of a droid, a special droid,
yeah.
a bio-droid. It has a living circuit design.
Mm-hmm.
A creature is actually inside droid. That has force sensitivity. It's
yeah.
the only non-sentient creature that's ever been found that
mm-hmm.
has force sensitivity. And it's actually used as sort of a living central processing unit in these droids to make the droids force sensitive, slightly precognitive,
yeah.
dangerous as all. And there's a little planet called Cestus that is getting ready to sell a bunch of these to the separatists.
Mm-hmm.
And so the Palpatine, of course, is not very pleased about it. Because they can be used in the battlefield, and they're almost as powerful as Jedi.
Yeah.
You know, and they're just too dangerous to be mass produced ever.
Mm-hmm.
But the planet has the legal right to produce them. So what Obi-Wan has to do is to get in there and stop this planet from doing something it actually has the legal right to do, which is to produce these droids.
Mm-hmm.
So Obi-Wan is tasked with being a politician, being a negotiator,
yeah.
Which he's not very comfortable with. And Nate is one of the clone troopers, one of the advanced recon
yeah.
commandos that is sent out to accompany Obi-Wan, one of five that's sent to accompany him on this job.
Okay, and after that, in Chapter 5 of the Clone War cartoons, there's a big underwater battle on Mon Calamari involving Kit Fisto and clone troopers in scuba gear. Did you inspire yourself from that battle?
No, I never saw it.
No?
Mm-hmm.
Oh. Because I thought when I saw the training mission on Vendor 3,
mm-hmm.
that it was inspired by that chapter.
Never saw it.
Oh.
Now, I only saw one Clone Wars cartoon, the one where Ventress is hopping around on a bunch of tree limbs fighting somebody. I don't quite remember. That might have been Obi-Wan or might have been Anakin. I guess it was Anakin she was fighting or something like that.
Yeah.
I was trying to see more of the Clone Wars things, but I couldn't get my computer configured properly so real time wasn't quite playing it right, and Windows Media Player wasn't acting right. I've only seen one of the Clone Wars cartoons.
Yeah. You should see it. It's pretty cool.
Yeah, that's what I've heard.
Yeah.
I heard they're really good. Yeah, I was kind of surprised to find out that some of the stuff I'd done had been mirrored in that. But, you know, that's very cool.
Yeah, you have good instinct.
I like to think so.
There was a mention about this training battle on Vendor Tree.
Mm-hmm.
There was a mention that there was an average of 2% lost during those training exercises.
Mm-hmm.
Do you think it's reasonable for the Grand Army of the Republic to accept that big of a loss, since the clone troopers are not limitless, if we consider that they're only about...
Well, they're not limitless, but it's very true. A Russian Special Forces troops will train at a level of loss that's almost that, huh?
Oh.
I mean, you know, you've got to be kidding. You're preparing, when you're talking about warriors, you're talking about soldiers, you're talking about people who have to be able to function in battle. The only way to lose the minimum number of them is to make the training as tough as it can possibly be.
Mm-hmm.
That's the way you prepare people psychologically to be able to use their skills under stress.
Yeah, but one clone trooper more can do things also, even if they're not as well trained, no?
This is true, but what people have found over the years is that the more you bleed in training, the less you bleed in combat.
No, that's true.
That you need pressure, and they will do that with ordinary human troops. So it made perfect sense to me that they'd certainly do it with clones, who they're not going to have as much respect for.
That's good. You mentioned in chapter 14 that there's a Republic official anthem, "All Stars Burn as One."
Yes.
Did you compose some lyrics for that?
No, I didn't. But I was kind of surprised that they let me get away with that. I was a little bit surprised that no one had ever asked the question if the Republic had an anthem.
Yeah, that's because I'm sure that if you would have, it would have pleased a lot of fans to that they would themselves create.
I will task the fans with coming up with the words to the Republic's anthem, "All Stars Burn as One."
Because
a contest, you know, let me know who wins. I'll send them a signed copy of the book.
Because you can imagine that if you wrote those lyrics, that at Star Wars Celebration, all the fans would be singing it.
That's funny.
Okay.
Think about that.
Yeah. You created the X-Ting, the second race in the Star Wars universe, to have both male and female gender after the Hutt. What were your inspiration for that insect-like creature?
Well, I think that I'd always thought about a creature that cycled through a 24-hour period in terms of its intelligence.
Mm-hmm.
And I don't think I ever actually wrote that story, but it'd always been in the back of my mind. So when I was working on this, and I've got the X-Ting, you know, and I have an opportunity to, you know, I'm asking myself, well, what distinguishes them? You know, why are they more than just, you know, people in suits?
Yeah.
So I have to give them something unique, some sense of what's going on inside them, or else you don't believe in them as a species, right?
Mm-hmm.
They're just, like I said, they're just guys in suits.
Yeah.
So I thought, well, what if they cycle through intelligence? No, I don't like that. What if they cycle through gender? Gee, how long would it take? You know, so then I started thinking about it that way, and I thought to myself that, yeah, that could work, and that's kind of interesting, and I hadn't seen that before, so I decided to do it.
Yeah. You wrote the e-book, The Hive.
Right.
When does it take place during the Cestus Deception, and was it included in your original manuscript?
No, I left room for it in terms of the events.
Okay.
It takes place sort of between two chapters, right after Gamai Duras fights for her life.
Okay.
Before the next time we see Obi-Wan Kenobi.
Okay. When she said that she cannot have children or something?
No, it's right after she fights for her life. There's a scene there with the Hive Council, and in the book, we cut from there fairly soon to Obi-Wan returning back to his lodgings, and it's just the Hive takes
place. Okay.
That's cool. In the ebook, The Hive, we discover a huge, huge statue of Yoda. Cestus Deception confirms the presence of Master Yoda 150 years prior to the bio-droid threat. Do you have more detail about that?
No, I know what Yoda was doing there, but I'll never tell. It's like if I end up writing that book for Random House one day, so be it. But I just created in my own mind a little adventure for Yoda that I thought would be a lot of fun to have a very oblique reference to in the book.
Okay, so it will not be in Dark Rendezvous, the Yoda novel written by Sean Stewart?
No.
Okay. I thought that there was some kind of bridge there.
No, not at all.
Okay. So we suggest that Random House hire you again to write this little story.
Or maybe even just the Insider.
Yeah. Most of the Star Wars author writes into the Insider, so you're probably will have a chance again.
Well, it's possible.
Yeah.
So right now I'm already knee deep in the next book and putting myself in a new world. That's just kind of my life, just sort of moving from one universe to the next.
Yeah. I was just speaking about Sean Stewart. You had a Clone War panel with Sean Stewart at Comic-Con, right?
I believe so.
Yeah. Did you prepare something for that panel with Sean, or will you be going on the fly?
No, I'll just answer. I'll probably be pretty much like I am with you, just talking about the process and what it is that the book is and why people should read it and
that's
that I think it's a nifty book.
That's pretty cool. You are the first author to really develop the Kit Fisto character. Can you explain us the creative process for that particular Jedi?
Well, I didn't go into Fisto as deeply as I would have liked to. I think that Fisto deserves his own novel.
Okay.
But I basically kind of asked myself, okay, if I'm an aquatic Nautilin who's raised, from a baby in the Jedi Temple, what am I going to think? What am I going to do? How am I going to be inside? And to a degree, I tried to bring him to life as much as I could from the point of view of what he would be, mm-hmm. as opposed to what a humanoid Jedi would be. So there weren't a whole lot of guidelines. There wasn't a lot of information. He only appears for a couple of blinks on screen. So, I just expanded what I could.
Yeah. Did you base him on yourself a little bit?
No, he's much more action oriented in terms of jumping head first into things. I'm much more likely to sit back and think.
Okay. Sorry. My headset just came off. Okay, there's a couple of mention of General Grievous in the book. Since Grievous is also a biodroid, any relation with his origin and ancestors?
That's a possibility. He was one of the characters who I was told to use.
Okay.
So I do not know. They may have something else up their sleeve. I think they compartmentalize a lot.
Mm-hmm.
They have an idea going, and they'll tell people, throw in this character, and they've got something else in mind, that's going to happen somewhere else.
Okay. That's good to know. From your point of view, how similar is the Jedi philosophy and the martial art philosophy?
Well, it's a martial arts philosophy in a world in which magic exists.
Okay.
And it's not that much different from martial arts philosophy in a Chinese Hong Kong, Shaolin temple movie where people are practicing balancing on one foot on bamboo with lightning coming out of their eyes. Star Wars is a universe in which magic works.
Yeah.
And so technology works as well, sure, but the Force is a bad mamma jamma in that sense. So what you have in the martial arts are things that have to do with controlling emotions,
mm-hmm.
and understanding the path that leads to excellence, and learning how to deal with disappointment and learning compassion and so forth. And these are all important warrior skills. But like I said, the Jedi philosophy does include an interaction with with what in Chinese or Japanese or whatever martial arts we call ki and chi and prana and stuff like that. And only it manifests in a magical sense. Like I said, thunderbolts and lifting rocks with your mind and so forth and so on. Things that have been used as metaphors for these powers for a long time, and maybe there is some actual truth to some of that. It's hard to say. I do know that that there are some extraordinary disciplines of physical and mental development that exist that most people are unaware of. I do know that that is true.
Okay. Speaking of martial arts, there's definitely a big inspiration in those close combat scenes, and especially when Kit Fisto teaches Jedi techniques to the clone troopers, and when Obi-Wan is fighting Jango Tat.
Mm-hmm.
How much of your knowledge did you put in those fight scenes?
Oh, well, those fight scenes very specifically included work of a gentleman named Scott Sonnen, who has brought martial arts and physical training technology from Russia, from the former Soviet Union, to the United States. Some of those concepts are real things.
Okay.
And I use them because I have tried them and know them to be real.
That's really cool.
Yeah, and you know, the guy's name is Scott Sonnen, and he's absolutely for real. And you know, you can find him at www.rmax.tv. The guy is phenomenal. I put his URL in the back of the book, and his material is so advanced. It's like science fiction.
Oh, cool.
Yeah.
The book is all about deceptions. Do you think Obi-Wan crossed the line into the dark side when he deceived the five families and Duris?
You know, I don't think he did, because I think in his heart, at every moment, he's trying to save the lives of everybody on that planet. Because if he fails in that mission, if he goes home without having succeeded, or if he dies in the attempt, he knows that Palpatine is going to order a bombardment of Sestus.
Yeah.
He's trying to save people's lives. And, yeah, he's being forced into a terrible situation. Obi-Wan Kenobi is as honorable a human being as anybody has ever written about. But there are places, you know, the world of politics is a world in which honor doesn't work.
Yeah.
You know, honesty doesn't work. The personal connection between Obi-Wan and Gamai Duras, as soon as they could just be two people, all the BS went out the window.
Yeah.
They can just talk. They know what's going on. But in their professional, you know, roles, their assigned roles, there's no hope.
Yeah.
And I think that that's what I was going for. I do not believe that Obi-Wan would go to the dark side. I loved writing Obi-Wan. He's a good man.
Cool.
I like my character. Don't you talk about my Obi.
Okay.
I may never write another Star Wars book, but I took it very seriously.
Yeah. Speaking of the dark side, you got the chance to use the kick-ass chick, Asajj Ventress. How cool was to write her?
Oh, it was great. You know, because what I did was I thought of her as being just really hot and kind of twisted. so that all of her sex drive goes into killing people. That was easy.
That's cool. She is so eager to kill Obi-Wan and was anticipating the moment, but yet again, she decides to flee at the end. Would you have liked to have permission to write her death?
No, because if I was going to write her death, I would have wanted to have spent more time creating her over the course of the book.
Okay.
I had made the assumption I was just introducing her.
Okay.
If I was going to kill her, I would have spent three times as much time with her character.
Mm-hmm.
You know, I don't kill somebody, you know, without developing them, you know, in general. And she was just too juicy a character.
Okay. Yeah, I understand.
And evil. I haven't written a lot of evil women.
and you saw her at least in one Clone War episode. So
yeah.
You could know from Anne how she was good.
Huh?
You didn't know how good she was with.
No, I mean I know that I was told that she was a villain, you know, and to use her in opposition to Obi-Wan. Now that doesn't mean that she's beyond redemption.
Yeah.
You know, I wouldn't be surprised. I mean, almost any villain that's two dimensional and just pure villain is not interesting. I'm sure Grand Moff Tarkin had his reasons.
Yeah, that's cool. In the novel, you point out that the Sestus government is torn between helping to save the galaxy and saving the planet's economy and its people.
Right.
What is your take on the businesses influencing more and more the politicians' decision-making nowadays?
Well, I think that there is a battle between people who are rising up from the top, from the bottom,
mm-hmm.
to people who are looking down from the top. And so that battle between labor and management,
mm-hmm.
between business and the proletariat, right?
Yeah.
You know, and I think that tension, if you let either one of those sides, if you let the the proletariat get out of control, you know, you get the French rebellion. You know, you get the peasants rising up and killing the aristocrats and taking power themselves. They become the aristocrats.
Mm-hmm.
You know, if you let the people at the top have control, then they will buy the government.
Yeah.
So, you know, what you have to do is you have to have both sides. And you have to try to have the tension between the two, at least those two sides, balanced in some way. So, yeah, it scares me that government is being so influenced by business. I don't like the way that looks. I don't think that I do not like the situation that America is in right now.
Mm-hmm.
In connection with that, I think that relationship between money and government has created some uncomfortable moments in which I am not happy,
mm-hmm,
with the direction that we have taken here.
Yeah.
And that I believe that it will correct itself, because I think the average human being, let alone the average American, but the average human being is a good and decent person who is trying to do the best they can. It's just that the world looks very different from the top than it does from the bottom.
Yeah.
And it's very difficult for people at the top to understand what it looks like from the bottom, or for people at the bottom to understand what it looks like at the top.
Yes. Very well pointed out. Chapter 67, my favorite, where Jango Tat is confronting his own individuality and the meaning of his life, as a good amount of emotional charge, as you see in one of your life writing lessons. That chapter touched me a lot, and I think everybody can see themselves in Jango Tat at one point in their lives. Is there an event in your life that you might want to share with us that could have inspired that scene?
I don't think that there is any specific moment. There are definitely moments in my life where I felt my life changed.
Mm-hmm.
I changed. And times in my life that have shifted me from being one kind of person to another. And, you know, that stuff, if you look at your life, you know, will give you all the information you need to write anything you ever want to write.
Mm-hmm.
But you have the response. You have to be honest about it. You have to be honest about the fact that you are brave and cowardly, that you are, you know, fearful and placid, that you are angry and loving. You know, that you have to be willing to look at all that you are, forgive yourself and forgive other people. That doesn't mean giving them a chance to hurt you, but to look unblinkingly at your own existence will get you those moments of existential despair that you then need to inform something. You know, to where you ask yourself, if I was Jango, and I was Jango Tat, I was in this situation, how would I feel?
Mm-hmm.
How would it feel to have been raised in this way or that way? How would that feel? And I just simply took the position that the clones have feelings. There are people who say, oh no, clones don't have feelings. You know, and they're welcome to have that opinion.
Yeah.
I think they do. And that's the way I wrote that book, and I figured that I wanted to tell the story of one clone that awakened to his humanity.
Okay, we're now we're gonna look in the chat room what fans question have sent.
What questions have sent?
Yeah, sorry.
Seth Terrian from the chat room actually asked us when you went to school, Stephen, did you go to school to actually become a writer, or was this something that started just as a hobby?
Well, it started as a hobby. I majored in communication arts at Pepperdine University, which was speech and writing and a lot of, you know, and radio and stage and debate and, you know, things like that. And just writing is what really came out. I tried some other disciplines, but I love public speaking and I love writing. And so I decided that writing is something I can do in a room by myself. It's the thing that comes closest to who it is that I am. That it is of external things. It is the external thing that comes closest to my own essence. And so therefore, I wanted to spend. I think that one of the secrets to success in life is finding the river that runs through your heart. Finding the stream that runs through the center of your life and living as close to the banks of that stream as possible. Finding something that is honestly you in a way that is a contribution to the world, and then working that puppy and finding a way to make money at it and spending a lot of time there. And I think that that's a way of going where God takes you and finding a way to make that meaningful in your existence. So writing for me at this point in my life isn't, it's not about making a living. It's not about a hobby. Those are all parts of it. But it's also the way I support my family.
Mm-hmm.
You know, it's the way I express myself. When I talk to the world, when I have characters react, I'm telling people this is the way I think people are. It doesn't get any more serious than that. And so it's ultimately a spiritual discipline. It's an intellectual discipline. It's all of those things. It's what I love. It's why I get up in the morning. You know, there are only three things in the world that I care about. I care about writing, I care about my family and friends, and I care about martial arts.
Cool. You seem very happy with your life.
Huh?
You seem very happy with your life.
I am. Man, there are times when I'm broke, and there are times when I'm rich, and I get to travel and do things that I like, and I love my wife, and she's my best friend, and I love my daughter. My daughter just graduated high school. I just adopted a 6-month-old, just adopted a new boy, a baby boy who's now 6 months old.
Cool.
And I am happy with my career. I was very nervous about writing the Star Wars book because I wanted the fans to like it.
Mm-hmm.
And I really did. I feel much better about that now. You know, life is good. It's hard. It's challenging, but it's good.
Cool.
And this is the life that I wanted.
Very interesting indeed. Another question from Seth Therian. How did you get your start, your first big break into writing?
The biggest break I got was talking Larry Niven into working with me. He was, at the time, one of the biggest science fiction writers in the world, and he hung out in the Los Angeles science fiction circles, and I approached him, and I showed him a couple of my stories. He read them and considered me to be talented, and I talked him into collaborating on a project with me, and it worked out. That was the single moment. That was the moment where I stole about 5 years back from the world.
Had
about a 5-year head start on my career by working with Larry, actually.
Okay. You have other questions, Sebastian?
Yes, indeed I do. You mentioned earlier that you got some of your inspiration from Joseph Campbell's work.
Mm-hmm.
How were you introduced to his work?
I was introduced to his work specifically. I was teaching writing out at UCLA. And one day in class, you know, people said, well, gee, Mr. Barnes, you've taught us all these wonderful techniques, but I don't have the time and the energy to actually craft a career. And I said, well, if you were writing a story about somebody in your life situation, and at the end of the story, the person got everything they wanted, what would you have that person do next? And the guy started coming up with all of his own answers. And so I said, darn, what in the world did I just say? He started designing his own life as soon as I gave him that perspective. And I tried it with other people in the room, and I realized it was something about story that connected with the way we organize our existence temporally and through emotional connection. And I began to look for answers, and Joseph Campbell's work was where I found the answers, because he'd done all this analysis of myth. And this is actually what led to the life writing program of self-improvement development and writing, which I'll be teaching at the Pacific Northwest Writers thing next weekend, and I'll be going teaching at the Maui Writers Workshop in the summer. But I also have a videotape series on my website at www.lifewrite.com that is both the entire way that I look at writing and the core of that Jedi flow technique that I do in the book.
Mm-hmm.
That actually exists as a technique, an amalgam of several different techniques. It's the most powerful form of physical mental development I've ever seen in about 30 years looking. So like I said, it's from Russia, and it really works. But at any rate, Joseph Campbell's work, because it looks at myth patterns from all over the world, is not confined to a particular time and place. It's not about poetry or about movies or about books. It's about the way we organize reality that we recognize as being a story.
Okay.
Yeah.
Were you aware that Joseph Campbell actually included the Dead Sea Scrolls in his studies?
No, I wasn't aware of that. I wouldn't be surprised.
Because they were in Montreal a couple of months ago, and we were actually told that.
Cool.
And it was written. I was very, very impressed.
Well, it's all world. You know, basically all you're saying is the course of your life is you're going to try to do things, and you're going to be scared to do them. Because if you do these new things and you're successful at it, you're going to change, and we really don't want to change. But life forces us to change. So we will go out into the world, and we will try to become adults. We will try to meet these challenges. Along the way, we will meet teachers, and we will learn to do things. We will keep getting better until we run into a wall that's either caused by something outside us or inside us. We will not, when we cannot get through this, we will feel fear and despair and heartache. The way through that is faith. And if we have enough faith, then we will confront our internal or external demons, we will win, and at that point, we will start a new cycle of life in which we have the ability to turn around and teach other people what it is that we have learned. You know, that's what it is, and you can dress that up any way you want to, 1,000 different ways an hour, and people recognize that as being a story every time.
Very well pointed out.
Very well pointed out. Keep that in mind, not too far. Very quick question. Earlier in the interview, you mentioned this Star Wars Holocron CD.
Mm-hmm.
Is this something you can actually get from Lucasfilm or
on eBay?
What does it actually contain?
All the secrets that you don't know and you wish you did.
Okay,
it's basically the Bible that they put
on. It's the Bible.
Okay.
The one thing I will tell you is that episode 3 looks good.
Oh,
episode 3 is even on this.
We have good reason to be optimistic. Everything I've heard so far, and I've heard a lot about what goes on in episode 3, it sounds like Lucas has pulled it together just fine.
Okay.
Yes. I'm looking forward to it.
You know, we're going to actually test your Lucasfilm implant right now. So people who want to get like spoiler-free, turn down the volume for the next minute or so. Get ready. I hope you're sitting down. How and why does Anakin turns to the dark side?
I would never say that.
Oh, damn. It was worth a try.
They did not have me sign a non-disclosure agreement, but I think that was understood. That is the kind of thing that actually makes drama. I will tell you that I believe the reason.
Yes.
That is what I will tell you. It works for me.
Okay. I've been reading through some of the chats that happened through the internet, and even I was very surprised, I have to admit, of the interview you gave to StarWars.com when Cestus of Deception came out, or was about to come out. You are a very philosophical person. Personal comment here, which does not probably reflect the one of my friends, but if there was like a Jedi Council to be made, you'd be sitting on that council on Earth.
I wish I could have been a Jedi. I'll tell you, my midichlorian count was a little too low.
No, we're actually going to do something about that next year. The midichlorian demystified at a convention. We just decided upon this, but basically, you keep a very well balanced life.
I try to.
And
it's tough, man.
It
really is.
It really. I mean, I kind of go through that a lot because I try to live my life in the ways of the Jedi, and
damn fine thing.
Yeah.
I have respect for that. Truly.
Thank you.
You know, I think that we wish to bring not just magic but a sense of honor into the world, a sense of beauty and grace,
yes,
and power, and you know, and I think that's you know, that's what we all want, and I you know, that's why I'm proud to, you know, hang out in bookstores with people dressed up in Star Wars uniforms. It's a hoot. A hoot. I understand where they're coming from. Don't we all wish there was a world in which the good guys and the bad guys were that clearly marked?
Yes.
If we all know that we're going to die, it's better to die for something than for nothing.
There you go.
Adventure has been loved since the beginning of time. Star Wars is just the latest iteration of this. It's the latest iteration in a grand and great tradition of literature that has existed since before Gilgamesh. You know, it's like it is part of how we define ourselves as human beings, as storytelling. We don't write stories. We don't create stories. Story created us. Story created the human mind as we understand it. It's you know, this is, it's important. It's so important that the artist, I think, has to not take too seriously what happens to him as an individual. You're asking, when you say that you want to be an artist, or you say you want to be a martial artist, you say that you want to stand for something, care for something, help create something, you're saying that I want to be part of something that's bigger than I am. And that's where your power comes from. The degree to which you get your own ego out of the way and you live for something bigger than yourself is the degree to which you can levitate spaceships. We stop ourselves from being magnificent. That's the reason why most people don't accomplish their dreams, don't actually make an impact, don't have the kinds of lives they want. They get in their own way. They're trying to control it. All the people who really function at that level
have gotten out of their way. They're not doing it for their ego reasons anymore. They found a way to be in alignment with their own values and beliefs in such a way that they know what they're prepared to die for. And when you know that, you know what you're ready to live for.
Now we will call you Yoda.
the Yoda of all authors. To go on a very serious question now.
Ask me anything you want.
The very philosophical person in you,
yes.
And a little bit earlier as well, you mentioned that people have to have faith.
Yes.
Do you have, like, an opinion on people who believe in the Force?
I think that's just a word, man. I mean, a label is not the thing. I mean, once again, ki, chi, prana, pneuma, Holy Spirit, a sense that there is something more than what we see and feel, you call it anything you want to. Unless you told me that you believe that Obi-Wan Kenobi was a real person, to tell me that you believe that there's an energy field that binds the universe together is not saying anything more that much different than what, you know, yogis and martial artists and people like that say when they try to get people to believe in subtle energies in the world. It's not the word. Don't, you know, what are the fruits, man? What kind of human being does it create? How do you react to the world? Are you loving? Are you healthy? Are you moving towards being a better self-actualized human being? Are you creative? Are you able to play with children and listen to adults and help old people across the street? You know, what are you really? And if believing in the Force is a way of helping of verbalizing something that you feel about the invisible world, then that's fine.
Cool. Indeed. There's nothing much more to add to this.
You know, my belief is very non-sectarian. I know some excellent Christians and some excellent Muslims and some excellent Buddhists and, you know, some excellent atheists. You know what I'm saying?
Mm-hmm.
I care about what kind of person you are.
That's
not what label you put on it.
What I particularly love, just like on a personal note again, I wanted to like say you are so right when there's a lot of people who actually just have dreams and they just don't realize them because they're actually afraid.
Sure. Well, fear is
what could happen.
That's why I specifically talk about a technique of removing fear from your body. I mean, that's why the martial arts and yoga and things like this are considered to be techniques of spirituality. However, that approach to it is not taught in martial arts schools. We don't have the words for it. That's why I was kind of so startled. I'm deadly serious about this. That Scott Sonnen's work, listen, you know, where I give the URL in there, is the first place I have seen. I've been studying this stuff for over 30 years, and I have black belts in judo and karate and studied yoga for years and tai chi for 20 years and all this stuff, and it's all very interesting, and none of them have the English to explain how it's done, really talking about there. And for the first time in my life, I understand this stuff now. It doesn't make me able to do it all, but it actually means that every day when I work on it, I can actually get better at it. That's miraculous.
You're one step further, that's it.
That's
okay.
Right. Well, I can actually see the path. Now I actually have to walk the path, but I'm not walking in darkness anymore. That's a huge, you know, that's a wonderful gift to know that the work I do will actually pay off. I think most of the time the people, you know, they try to lose weight and they go on a diet. It doesn't work the way people promise it will, and so they think the problem is them. No, the problem is that they've been lied to about what makes it possible for your body to be lean and healthy and energetic. We've been lied to too many degrees about what it takes to succeed in relationships or in our careers, because most of the people we've listened to about this stuff didn't have it themselves.
Cool. We will return now with the...
We're
more Star Wars questions?
We're going to go to the conclusion, but just before we do that, can you repeat the URL for fans out there, because some people want to know in the chat?
Okay, well, my URL is www.liferite, LIFEWRITE.com.
Mm-hmm.
I have referenced a gentleman named Scott Sonnen, who teaches a very interesting set of principles from Russian martial arts, and you can find him at www.rmax.tv. He's the real thing.
Okay.
Now, what's the feeling of having written a chapter in the Star Wars saga?
I love it. I've written in several major mythologies of Western civilization, you know, Star Trek and Star Wars and Batman and Twilight Zone and Outer Limits, and it feels
wonderful. I love it. I just wanted to do an honorable job of it. You know, it's not about me. It was about, it's about supporting this dream, you know, and about getting people excited for that last Star Wars movie there's probably ever going to be. Hopefully it will be a knockout movie and everybody's going to love it, and I've done my part in building to that. And that is a perfectly honorable thing. I'm perfectly happy to cash my paychecks if I feel like I'm doing work.
And having your name associated with Star Wars.
Absolutely. Can't hurt. New York Times bestseller, automatic one.
Yeah. Did you read any Expanded Universe books outside of the Clone War timeline?
Did I read any?
Yeah.
No, I didn't have the time to.
Okay.
No. I spend most of my time doing...
You have to make the time now.
Huh?
You have to make the time to read them now.
No, I don't. You know, that's not the primary way I feed my entertainment.
Okay. As an author, what are your comments on the expanded universe versus the official stories of the movie?
I haven't read any of them, so I really couldn't tell you. I know that they're written by competent people,
mm-hmm.
you know, and so I'm sure that they're good stories, but I just couldn't tell you anything about them.
Okay. How much of a Star Wars fan were you before writing a Star Wars novel, and how much of a fan are you now?
Well, I was a fan before I wrote it. I'm no more of a fan now. You know, I was there on the first day for every movie except the first one.
Okay.
I think I saw it after about 4 days after it opened. You know, I love them. You know, I drove from Los Angeles to San Francisco to go to the cast party on the Return of the Jedi.
Nice.
That was a lot of fun. I got to party with them, and I got to meet George Lucas there. And
oh.
Like that. Very nice man. You know, it's been a very, very good experience. I don't know whether or not I'll do more. If I do, it'll be because I like the reactions that I got from people. There were some Star Wars fans who were making real contributions, and I kept in touch with me
mm-hmm.
over the period of time of writing it. And my experience overall has just been great. If this might be the only thing I do, because it's always a matter of going on and doing something next, you know, it has to be where interest meets finance.
Yeah.
So it's not just about what would be fun to do, it's also about what's actually practically feasible to do, given what I want to do with my career.
Mm-hmm.
But the challenge was there, and the enthusiasm was there, and the opportunity was there, the time was right. So I had this extraordinary opportunity to be part of something that is arguably the most popular mythology of the 20th century.
Yeah.
And that's, you know, I'm honored.
If you would have another chance to work on the Star Wars universe,
mm-hmm.
what particular story would you like to tell?
I don't know. I can tell you this, that there's something I can't tell you about, that there is a project that I'm working on
mm-hmm.
that would be... Well, let me ask you a question. Okay, if there was a video game that
yeah.
you could play,
mm-hmm.
it put you in the Star Wars universe,
yeah.
and you control the video game with your feelings instead of with a joystick, literally use the Force to control the game, would you be interested in that?
I would be, yeah. I can't imagine it right now, but it would be special, definitely.
Yeah, basically where you would attach sensors to your body. And you'd use your feelings to control the game.
Oh, my God.
This is what... I can tell you the truth. This is... I'm part of a project to work with this right now. I can't tell you any more about it. But we hopefully will be presenting this to Lucasfilm within a month or so. And if this happens, we'll probably be announcing it at the Indiana meeting next year. But I don't know if this will happen. But I have been telling these people... that with their technology, with what I know about storytelling, that it could be done and that the Star Wars fans would support it if it worked.
Do you need some guinea pigs? Where do I sign up?
It very well could be. I just want you to know that that if this happens, you guys are going to be really, really happy because you'd actually be able to learn to control the exact... Well, it's the closest thing to start to teaching how to become a Jedi that it'd be possible to imagine.
It would kind of work with your brainwaves or something?
That's right. Brainwaves, galvanic skin response, your control of your autonomic nervous system would control the outcome of the game. You'd actually be learning skills and then using those skills in a game context.
Wow.
To survive, to win points, to compete with your friends, and how much of the Force you can control.
We were thinking that you were going to talk about the Star Wars TV series that they were maybe planning, but this is great. You're a video game that you...
Yeah, so it would be like nothing that's ever been done before, and it actually, the technology actually exists, and we're actually in the process of designing the proposal, of designing the demonstration model. The game itself is just a matter of modifying it and reworking it and restructuring it for the Star Wars universe, but the technology actually exists.
Wow. Every time we get someone on this show, we get like one of these big scoop. And thank you very much for this one. This is gold.
It is. It's absolute gold. And if I'm, I want to make this thing happen, because if it does, it would probably end up being the single best game that was ever released. Because not only would it be incredible fun, but you're actually learning. You know, I mean, it's an amazing idea. Wow! Not, and it knocked my socks off to realize that it could actually be possible.
Yeah, self-control, but, discipline, etc.
You're talking about the first real 21st century video game. Is what you're talking about.
Cool, very cool.
Yeah, this is the real deal.
Oh my God!
It would be Star Wars.
Now you would have fans doing that all their life, you know, like in the Matrix.
Well, the fact is that if you learn how to control your feelings, you learn how to control your health, you learn how to control your emotions, you learn how to control the things that make you a better athlete, that make your body heal faster, you know, that those things, that's real stuff, man. You want to do that for an hour a day, you want to do that 2 hours a day, three, four, fine, great. You're actually learning how to be a better you. You know, if this is for real, it's not just playing a game where you look like you're doing something, you have to actually learn how to do it.
Wow. I'm blown away.
Yeah, you're gonna be. fine. Get the buzz going about that, because if we take this to Lucasfilm, if they look at me and say, "Do you think the fans would like this idea?" I want to be able to tell them, "Yes, the fans would love this idea. If we will get behind this and put it out there, they will support it. If it works, they will support it." And that's what I think is the truth. I think I can look at them and tell them that you guys would want something like this.
Let me tell you that Star Wars fans will want this. Okay. Whatever happens. You know...
I gotcha. And what I want you to know is that I am committed to bringing this to you.
Cool. You know, Steven, there's this thing about, like, Murphy's Law and Danny and me, and I always tend to think that life has a way of balancing itself.
Mm-hmm.
And I'm going to repeat right now this in front of you to our fans out there who are listening to the show right now. This is exactly what you need to go to the Star Wars community boards in the actual fan activity thread for the Star Wars Fan Audio Radio Show and discuss this. Discuss this new upcoming game.
Yeah, the only thing we can say
on
about
the community board
is, you know, so that you have a word. You know, it's a Star Wars game that Stephen Barnes would be writing where you use the Force to control the game. Just, I can't even give you a name for it. I can't tell you the name of the company or any of that stuff yet. But here's what I tell you. If you guys will support it and get some buzz going, then as the process goes on, I will get in touch with you and give you the scoop.
Ladies and gentlemen, you've heard it first, again, on Star Wars Sound Direct. We're starting the buzz tonight.
Stay in touch, and I will let you know how things are going. So if it works out, it might be possible for us to have a contest where a group of Star Wars fans might get to try a beta, you know, when it's beta test copy time.
Cool, very cool.
You know, because the best people to play a game like this would be the fans. Not the writers, not the editors, not the engineers. Let's get the fans in there and say, was it fun?
Yes.
What?
that's what you want to do.
I'll surely keep in touch with you.
Please do.
Oh, yes.
You got my email address.
Yep. What do you think about Star Wars fans?
Well, they're like fun people. I mean, look, the first group of people where I ever felt completely at home was science fiction fans. I found science fiction conventions in my early 20s. And there have been lots of different types of science fiction fandom. Star Wars is another one of them. Nice people. You know, they have lives and families and jobs. A lot of them are in school. Some of them are in the military. This is something that they love. And, you know, they're just folks with an enthusiasm.
Cool.
You need to be enthusiastic about it.
What are you working on right now?
Oh, okay. I'm working on a murder mystery set 30,000 years ago in East Africa.
Oh.
Called Great Sky Woman. I spent 2 weeks in Tanzania last year out of the Serengeti doing research for this.
Mm-hmm.
And I'm about 85,000 words into it.
Oh, cool. So when will it come out?
It'll come out probably late next year, like next Christmas.
Okay. I saw that you have a personal journal, a blog on the internet. And
yeah, I'm starting to blog now.
Okay.
Eventually, the blog will be on my personal webpage.
Okay.
And I'm just I need to add something on there today, but I'll be adding on. I just started within the last week, so I'll be putting on, you know, when I see movies, when I have thoughts, and my old columns for life writing, mm-hmm. and things that I think about personal, mental, you know, development. And you know, I think in one aspect, what we could call Jedi training.
Yeah.
No, we're not going to teach people how to pick up marbles with their mind, but we are talking about living lives that are vibrant, alive. You know, if you're interested in the martial arts, if you're interested in creativity, if you're interested in being a healthy human being, I think that disciplines like yoga and martial arts, all these things, really are covering the same area that George Lucas was talking about metaphorically. I've just managed to stumble into a technology that I think, honestly, is the most powerful I've ever seen, and it's relatively simple. It's kind of amazing stuff. So I'm going to see whether or not how many other people agree with that. We'll see.
Surprisingly, at the start of our show, we did review Spider-Man 2 and King Arthur. I just saw on your blog that you reviewed those two. What did you think about those two movies?
Well, I absolutely love Spider-Man.
Yeah.
I thought that Spider-Man absolutely kicked butt, that it was just about a perfect comic book movie, but I think that how much you like it is ultimately going to be determined by whether you're a Spider-Man person or a Superman person, mm-hmm. or a Batman person or an X-Man person. I think that some of these movies have been good enough that really it's just a matter of who appeals to you.
Yeah.
You know, I'm a Spider-Man guy. Spider-Man really did it for me. And you know, King Arthur, I thought was a great deal of fun. And then, unless somebody was really into the legend, and it almost felt like messing around with the legend is being sacrilegious, I thought it was a perfectly good movie.
Superb. Do you have anything else to promote? An upcoming book or book signing, a special project?
No, I'll be at the San Diego Comic Con next week.
Yeah.
Everybody, come down and say hi.
Oh yes.
You know, I'm really looking forward to that, and I hope an awful lot of you guys will be there. We'll be doing autographings. We'll be doing panels. They've brought in a lot of good people. So come to the biggest science fiction convention in the world and get a lot of free stuff and meet a lot of famous people and have fun.
That's very cool. Okay, now it's the time for the Star Wars Non-Direct Liner. Do you remember it?
What's that?
Hi, this is Stephen Barnes, the author of the Clone War novel, The Sestus Deception, and you are listening to Star Wars Non-Direct.
Star Wars on Direct?
Yeah.
Hi, this is Steve Barnes, author of The Sestus Deception, new Star Wars Clone Wars novel, and you're listening to Star Wars on Direct.
Can't do better than that. One more time? Okay, let's try it one more time.
Okay, this is Stephen Barnes, author of the new Clone Wars Star Wars novel, The Sestus Deception, and you're listening to Star Wars on Direct.
That's perfect. Well, thanks a lot, Stephen. It was a lot of fun for us.
Great. And we will perhaps speak again.
Oh, yes. Stay on the line. We'll talk during the break. And we'll go right ahead to a musical break, and we will come back to Star Wars on Direct, the voice of Star Wars fandom.
That's right, people.
It's not like we're dead. Was it something I did? Was it something you said? Don't leave me hanging in a city so dead. Held up so high on such a breakable thread. You were all the things I thought.
Away.
Chez SimpleNet, vous obtiendrez pour un coût très raisonnable une vitrine publicitaire pour votre compagnie, un site web créé pour vous sur mesure par notre équipe de professionnels ou tout simplement un espace pour héberger votre site personnel. Les amateurs de genre ne sont pas oubliés, nous pouvons vous offrir des forfaits de bande passante très intéressants, de même que des solutions de serveurs préconfigurés clés en main. Rejoignez-nous au www.simple-net.ca.
Citlan.net, c'est les toutes dernières actualités sur l'univers Star Wars. Plusieurs dossiers sur la saga. Des événements et rencontres entre fans. Un énorme forum de discussion. Une radio web à contenu 100% Star Wars, incluant une ligne ouverte en direct. Plusieurs concours ouverts au Québec et en Europe. Et bien plus encore. Ne résistez pas à la tentation du côté obscur. Cliquez sur le www.citlan.net.
Toy Palace est le seul arrêt pour vos produits dérivés de Star Wars. Vous y retrouverez toutes les collections Hasbro de Power of the Force 2 jusqu'à la récente collection Original Trilogy, ainsi que de nombreux produits d'autres licenciés Star Wars tels que Atacus, Master Replica, Code 3, Gentle Giant. Branchez-vous et faites l'expérience de l'achat en ligne chez Toy Palace, le numéro 1 d'Europe pour les produits dérivés de Star Wars. www.toy-palace.com.
Legends Action Figures, l'endroit par excellence au Canada pour vos figurines et produits dérivés de Star Wars. www.legendsactionfigures.com.
Hi, this is Steve Sansweet, and you are listening to Star Wars on Direct.
Et bienvenue à Star Wars en direct, la voix de la communauté francophone de Star Wars. Bon, on va essayer de vous traduire tout ça. J'espère que votre anglais est bon parce que M. Barnes, il parle énormément.
Il parle énormément. C'est très intéressant. Il est très philosophe, c'est très exactement. Intéressant, mais on part.
Imaginez nous traduire tout ça.
Bon,
première question.
Je pense qu'on va sauter un petit peu l'histoire de sa vie, là, mais principalement, ça fait 25 ans qu'il écrit. Stephen Barnes, et puis pour répondre en même temps là,
il a donné des cours à l'université UCLA.
Il a justement parlé de, c'est là qu'il a été introduit au travail de Joseph Campbell, qui est un très grand philosophe des temps modernes pour ceux qui ne connaissent pas son travail, et aussi pour répondre en même temps à une des questions du chat de Seth Tarion, un de nos amis, de nos auditeurs anglophones. Justement, la façon qu'il s'est rendu en écriture aussi célèbre, c'est en parlant avec un auteur qui était
dénommé
Larry Niven. Et,
Qui
était très connu à l'époque, dans les années 80, puis c'est justement lui qui a fait son...
Qui s'est associé avec lui pour l'écriture d'un roman. Puis...
Je viens d'embarquer sur la webcam de Lucasfilm, je suis désolé, et il y a nul autre que Kenny Baker qui est présentement à Comic-Con en train de signer des autographes, c'est très comique. Alors, oui, il nous a parlé de son site un petit peu, c'est liferite.com, LIFRWRITE. Com.
Si vous écrivez des fanfictions ou quoi que ce soit, allez voir là, il y a des bons trucs pour faire des histoires, des bonnes techniques.
C'est ça, puis justement, il nous parle des 10 techniques, là,
les étapes du chemin d'un héros dans une histoire. Là,
exactement, tel que représenté par Joseph Campbell. Alors, il y a évidemment le héros qui est présenté
il fait face à un défi.
Un défi, merci, c'est le défi que je cherchais. Il fait face à un défi. Alors, il va bien sûr rejeter le défi, mais ensuite, il est forcé à l'accepter.
L'exemple de Star Wars?
C'est justement Luke qui dit que non, il faut qu'il aide son oncle Owen, mais son oncle Owen, il est mort, donc il va aller sur Alderaan avec toi. Et justement, le héros, finalement, s'en va sur plusieurs différentes... étapes, qui est le Road of Trials, qui est en fait
l'apprentissage
là, de ce qu'il va avoir besoin pour justement survenir à son défi. Le héros obtient des pouvoirs et des alliés. Donc, évidemment, notre ami Han Solo.
Il rencontre des gens, et puis Obi-Wan lui enseigne la force, etc.
Exactement. Le héros a sa confrontation initiale avec le mauvais.
Oui, c'est ça.
Avec les méchants, c'est tout ce qui est vil. Alors, justement, c'est quand
Luke...
Il perd
sa première confrontation.
C'est ça, c'est quand Luke se sauve de l'étoile de la mort et que Obi-Wan meurt. Mm-hmm. Le héros entre dans le... Sa période de dépression, en fait. Sa période de dépression de soi-même. Et puis, c'est quand il n'est pas trop sûr de ce qu'il va faire, blablabla. Ensuite, le héros va vraiment là, se lancer vers son défi.
Ouais.
Puis c'est justement quand Obi-Wan lui dit « Trust the Force, Luke ». Puis là, il enlève son petit ordinateur, puis qu'il réussit à aller...
Il se lance dans le vide.
Il se lance avec la force, fait confiance à la force. Justement, The Hero Confronts Evil Again.
Ça, c'est la neuvième étape.
La neuvième étape qui est que le héros se confronte au méchant encore une fois et cette fois-là est victorieux. Donc, justement, la destruction de l'étoile de la mort. Et The Student Becomes the Teacher. Alors, c'est l'apprenti devient le maître. Donc, c'est vers la fin, surtout dans Return of the Jedi, où on voit que Luke est maintenant prêt à accepter. Justement, le fait
rôle
de maître Jedi. Mm-hmm.
Donc ces 10 étapes-là se rencontrent dans n'importe quel roman, dans n'importe quel film. C'est comme des étapes de base que toute bonne histoire va comporter.
Tout à fait. Alors, on va mettre le lien sur le chat pour les gens qui seraient intéressés à aller le lire plus en détail. Alors, ensuite, on lui a parlé de toutes les critiques qui avaient été faites sur de Cestus Deception. Et il dit qu'il les lit. On lui a demandé s'il les lisait. Il dit oui, tout à fait, je les lis. Il dit qu'il n'y en a pas vraiment des mauvaises, extrêmement mauvaises, mais qu'il aime ça lire parce qu'il peut comprendre qu'est-ce qui fait plaisir plus aux gens et puis et tout. Mais il trouve qu'il y en a quand même, il y a quand même des personnes quelque peu excentriques qui demandent un peu trop. On lui a demandé comment il avait apprécié sa première expérience de Star Wars. Il a dit qu'il l'avait aimé. C'était dans les années 1970.
C'est comme tout le monde.
Il en avait entendu parler. Il a été le voir. Mais dès que le Star Destroyer est apparu à l'écran,
il était parti. Il a chié dans ses culottes.
Non, peut-être à ce point-là, il était parti.
C'est ça.
On lui a demandé comment est-ce qu'il avait réussi à écrire un roman sur Star Wars. Alors, c'est son agente qui a parlé avec les personnes de Random House.
Mm-hmm. Elle avait été transférée chez... elle avait un nouveau boulot chez Random House, je pense. Puis elle a demandé de suivre
quelques projets. C'est ça. Et c'est ainsi que, de fil en aiguille, il s'est ramassé à écrire un roman sur Star Wars. Alors, on lui a souligné le fait que c'était pas la première fois qu'il écrivait dans un univers autre que le sien. On lui a demandé à quel point l'univers de Star Wars était différent des autres. Il a dit que très franchement, il faut que tu travailles avec ce avec quoi tu te sens bien. Faut pas que tu essaies de rien forcer. Puis c'est pour ça qu'il a pas travaillé avec Anakin, justement,
parce qu'il savait pas
exactement
à ce moment-là
ce qui faisait qu'Anakin était transféré au côté obscur de la Force. Maintenant, il le sait.
Mais il ne nous le dit pas,
malheureusement. On lui a demandé quel élément de l'histoire qu'il avait suggéré, qui était imposé ou qui avait été refusé par Del Rey Random House. Justement, il dit qu'il était très, très ouvert, mais c'est des personnes très intelligentes.
Disciplinées.
Il a quand même passé 2 jours au Skywalker Ranch et il a eu beaucoup de misère. Mais ce qu'il voulait vraiment montrer dans ce roman-là, c'était comment les séparatistes faisaient du mal à la République. Mm-hmm. Justement, on lui a demandé s'il avait eu la chance de parler avec d'autres auteurs de Clone Wars. Il nous a signalé que oui. Juste un peu avec Steve Perry puis un autre auteur dont le nom m'échappe. Mais oui, tout à
Michael
fait.
Michael Reeves.
Michael Reeves, merci. Avec qui il a eu la chance de parler. Mais juste vraiment là, pour souligner quelques petits points des Clone Wars, rien de très majeur. Il y a plusieurs références à la timeline de Clone Wars dans la Cestus Deception. Combien de temps on lui a demandé est-ce qu'il a pris pour faire la recherche pour le matériel qu'il a utilisé dans son livre. Alors il nous a dit qu'il avait eu la chance d'avoir un CD-ROM qui est le Star Wars Holocron, qui a écouté, réécouté et réécouté encore les films de Star Wars.
Qui nous dit plus tard que c'est le Star Wars Holocron est le nom officiel de la Bible, de l'univers étendu, dans le fond, de la Bible Star Wars. C'est, ça s'appelle l'Holocron.
Donc, si jamais vous recevez un CD par la poste,
c'est marqué Holocron dessus.
Envoyez-nous-le, s'il vous plaît. Et justement, alors, pour écrire The Sestus Deception, il a fait comme si c'était un journaliste qui rapportait une histoire pour un journal. Justement, Danny soulignait qu'il y avait 82 chapitres, que c'était le plus de chapitres dans n'importe quel autre roman de Star Wars qu'il avait jamais eu. Et justement, il dit que c'est juste quelque chose qui est arrivé en écrivant le livre, parce que Star Wars, c'est plein de petites scènes. Donc, il a fait plusieurs petits chapitres.
Sauf que si je compare avec les autres auteurs font la même chose, sauf qu'ils ne créent pas un chapitre à chaque fois. Ils créent un break dans une page ou trois petits points un à côté de l'autre, dans le milieu, le centré, puis ça change. Mais lui, il y a des chapitres là-dedans, ça a 10 lignes, le chapitre. Une page.
Donc, c'est très, très rapide. On lui a posé quelques questions sur l'histoire. Alors, Obi-Wan et Nate, les deux caractères principaux, s'ils pouvaient décrire dans quelle situation pas trop usuelle ils les avaient mis. Mm-hmm. Alors, justement, il nous disait qu'il y avait des situations où ils parlaient ensemble et puis que...
C'est ça. En gros, Obi-Wan était confronté à la politique, c'est quelque chose qu'il n'est pas habitué. Puis Nate, il était confronté à...
Soi-même.
À découvrir qui était unique, etc. Son uniformité, mais son sens de d'unicité, je sais pas.
Le fait qu'il est unique, en fait.
Exactement.
Même s'il fait partie de plusieurs clones qui ont été clonés, il est quand même unique parmi ces millions et millions de clones-là. Alors, chapitre 5 du Clone Wars cartoon, il y a une scène avec Kit Fisto sur Mon Calamari. On lui a demandé s'il s'était inspiré de cette bataille pour faire
la mission d'exercice au début
sur Vendor 3. Et sa réponse fut
non.
Absolument pas. Il les a même pas vus.
Il a vu un épisode de Clone Wars, puis c'est celui qu'Anakin puis Ventress se battent dans les arbres. Donc... coïncidence.
Très intéressante coïncidence.
Use the force.
Exact. ensuite, il y a une mention qu'il y a une moyenne de 2% des clone troopers, je crois, qui sont perdus durant les exercices d'entraînement. Et
j'ai carrément demandé, est-ce que c'est réaliste? Pourquoi qu'ils feraient ça? C'est, chaque clone peut être utile. Puis là, c'est là qu'il raconte qu'il a pris son concept sur l'armée russe, qui font des entraînements... Ou est-ce qu'ils ont des pertes?
Parce qu'ils
les entraînent à vraiment être bons combats, puis ils acceptent un certain niveau de mort dans les entraînements. Pour être certain, parce que c'est grâce à ce genre d'entraînement-là que tu perds moins de gens au combat.
C'est ça, c'est le plus que tu vas saigner en ton entraînement, le moins que tu vas saigner quand tu vas être au combat. Ensuite, il y a eu une mention du chapitre 14 par rapport au fait qu'il y a la République a un hymne national.
Exactement.
Et cet hymne national s'appelle All Stars Burn as One. Toutes les étoiles ne brûlent
qu'en une seule.
Qu'en une seule, c'est cela.
Brûlent ensemble ou.
As une seule étoile, enfin. Et on lui a demandé s'il avait composé des paroles pour cet hymne et il nous a dit non. Alors, ceux qui se sentent prêts à composer l'hymne national de la République,
allez-y. On va vous offrir un livre de Sestus Deception à signer.
on lui a ensuite mentionné qu'il avait créé les X-Ting, une race dans l'univers de Star Wars, qui était de la deuxième race, en fait, dans l'univers de Star Wars, qui sont autant mâles que femelles. Et,
après les
Hutts. Alors, on lui a demandé... Quelle était son inspiration? Et il voulait quelque chose qui était balancé comme personnage.
Il voulait
comme
quelque
caractère.
Chose qui les différenciait des autres, que ça n'ait pas l'air d'une personne en costume. Dans le sens. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit qu'est-ce que ça pourrait donner si on avait un personnage qui changerait de sexe à un cycle régulier? Donc, c'était ça son idée.
Et ça l'a très bien fonctionné, je crois.
Oui.
N'est-ce pas?
C'est bon parce que ça explore le côté mâle et femelle régulièrement. Donc, il n'y a pas vraiment de sexisme. Là,
c'est ça.
Il parle tout le temps dans un... Il n'y a pas vraiment de qualificatif au féminin ou masculin quand il parle. Tu sais, c'est tout le temps au singulier. Là, c'est ça.
Et évidemment, on lui a posé la question par rapport au e-book, au livre électronique The Hive, mm-hmm. La Ruche.
L'essaim,
merci. Ou La Ruche, là, pour ceux qui se demandent c'est quoi un essaim. Alors, ce livre-là prend place, en fait, entre deux chapitres dans le livre de Sestus Deception. Et pour ceux qui auront lu les histoires, c'est juste après que l'héroïne principale...
Ouais, ben c'est... Une des ministres, en tout cas une des chefs d'un des partis du gouvernement, elle se bat contre un autre, puis elle gagne, là. C'est à ce moment-là.
Mais elle manque de mourir, mais c'est à ce moment-là, je pense.
C'est tout de suite après.
Ouais. Alors, justement, dans le livre de l'essaim, on entend parler d'une statue gigantesque de Yoda, mm-hmm. qui prouve que Yoda était présent sur Ortsestus 150 ans avant la menace des biodroïdes. Donc, est-ce que on lui a demandé s'il pouvait nous expliquer un petit peu plus loin? Il dit non, il peut rien nous dire, même si lui il sait exactement ce que fait la statue-là.
Ben, ce que fait Yoda en fait sur 150 ans auparavant.
Exactement.
Sur cette planète.
Puis on lui a demandé s'il était pour c'était pour y avoir un rapport avec le livre Dark Rendezvous et de Sean Stewart.
C'est ça. Un roman sur Yoda.
Et il nous a dit qu'il n'y a absolument pas, il n'y avait aucun lien.
C'est une petite histoire qui s'est fait lui-même.
Donc c'est quand même intéressant. On lui a dit justement qu'il y avait un Clone Wars panel avec Sean Stewart, mais qu'il y avait une conférence avec Sean Stewart à Comic-Con. Okay. On lui a demandé s'il avait préparé quelque chose de spécial avec Sean ou s'il était pour le faire, pour y aller juste comme ça.
Au fur et à mesure, dans le fond.
Et sa réponse fut...
Non, j'ai rien de préparé.
Voilà.
On va y aller... Probablement qu'il va faire comme nous, répondre à des questions sur le livre, etc. Vanter son roman, etc.
On lui a demandé s'il pouvait nous expliquer le procédé de créatif. Ben, en fait, le procédé dans lequel il a été créatif avec le développement de Kit Fisto. Je te laisse l'apprendre.
Hein? C'est quoi la question?
You're the first author to really develop.
Au départ, il a dit oui, sauf que j'aurais préféré qu'il y ait un roman vraiment. Il mérite un roman dédié à lui. Il n'a pas été trop en détail. J'ai demandé si Kit Fisto, il y avait un petit peu de lui là-dedans. Il dit non, pas du tout. Kit Fisto est plus quelqu'un qui va se plonger dans l'action sans réfléchir, tandis que lui, ce serait le contraire. Ce serait plus le style à réfléchir.
Exact. Ensuite, nous étions... Ah oui, il y a une mention du général Grievous dans le livre. Alors, on lui a demandé si Grievous était un biodroïde avec une sensibilité pour la force et s'il y avait quelques relations que ce soit avec Ordcestus. Alors, il nous a dit que c'était une possibilité, mais que les gens chez Lucas Licensing n'avaient rien de prévu encore, quoi qu'ils peuvent avoir quelque chose de caché dans leur manche.
Mm-hmm. Tout est planifié en satellite, puis ils font des liens un peu partout. Là, toutes les histoires se finissent par se relier.
Donc, c'est pas impossible qu'il y ait effectivement quelque chose. Alors, on lui a demandé si, de son point de vue, à quel point la philosophie Jedi et la philosophie des arts martiaux étaient similaires. Il nous a répondu que oui, c'était quand même très similaire.
C'est juste le nom de la force qui est différent.
C'est ça, plus loin, en fait, c'est quand on parle, on lui a demandé s'il croyait en la force... ou qu'est-ce qu'il pensait des gens qui croyaient en la force. Il dit qu'en fait, la force, c'est juste un mot, et que ça, peu importe comment est-ce que vous appelez ça, c'est pour décrire ce qui est là, qui existe et qu'on sait qui existe, mais qu'on n'est pas capable de décrire.
Exactement.
Le livre est complètement par rapport à des déceptions. On lui a demandé si Obi-Wan allait... marcher sur la ligne grise pour le côté obscur quand il ment à cinq familles, ouais. Et Durris.
Cinq familles, c'est le nom d'un des piliers du gouvernement, les Five Families.
C'est cela. Alors, lui nous répond que non, parce qu'il est en fait, il essaie de sauver des vies. Mm-hmm. Donc,
C'est... Puis il dit qu'il a bien écrit son personnage.
Donc, d'après moi, il s'est basé vraiment sur lui-même pour écrire ouais. Obi-Wan. Parce qu'il a l'air d'être vraiment très, très près de Obi-Wan. Ouais. Parlant du côté obscur, est-ce que on lui a demandé s'il avait eu la chance...
Comment qu'il avait aimé travailler avec...
Asajj Ventress.
Asajj Ventress, le personnage.
Exactement. Il dit tout simplement que sa frustration sexuelle est dérivée vers tuer des gens.
C'est ça, c'est le fun, parce que justement, la frustration sexuelle de Asajj Ventress est utilisée justement pour tuer des gens. Mm. On rit, bien entendu.
Alors, justement, ils lui ont parlé... On continue avec Asajj Ventress. Alors, elle semble vraiment, vraiment... là. Avoir envie de tuer Obi-Wan, et elle avait l'air de vraiment anticiper ce moment-là, mais elle décide finalement de s'enfuir. Alors, on lui a demandé s'il il aurait aimé ça avoir la permission d'écrire sa mort à elle, et il dit non, parce qu'il aurait fallu qu'il développe beaucoup plus le personnage que ce qu'il a fait là. Donc, il ne peut pas. Et ensuite... justement, on parle du gouvernement sur Hortestus, qui est vraiment là
manipulable,
mais qui est dans plein de dilemmes entre aider la galaxie et sauver l'économie de la planète et tout ça. Alors, il parle justement là qu'il faut, c'est vraiment un peu comme le film de Fritz Lang. Il faut voir justement la bataille entre les employés et ceux qui dirigent les employés, mm-hmm. entre les deux classes. Puis en fait c'est qu'il faut balancer le tout. Donc c'est ça qu'il voulait démontrer dans le livre, et ça l'a pas été facile.
Puis il dit qu'il aime pas qu'est-ce qui se passe sur le gouvernement, comment qu'il gère ça aux États-Unis présentement.
Exact. Et...
voilà.
Dans le chapitre 67, où Jango Fett est confronté à sa propre individualité, c'est le mot qu'on cherchait un petit peu plus tôt.
Individualité.
Et le sens de sa vie, il y a beaucoup de charges émotionnelles. On lui a demandé s'il s'était servi d'un événement dans sa vie pour écrire cette scène-là.
S'inspirer, ouais.
Et puis, il n'a pas répondu directement, mais
plusieurs situations.
Ouais. De par sa réponse, on peut dire qu'effectivement, il s'est inspiré de plusieurs événements de sa vie pour écrire justement cette fameuse scène-là. Alors ensuite, on est passé avec les questions des fans. On lui a demandé si Seftarian lui a demandé de l'école s'il y avait quelqu'un qui était...
S'il avait débuté à cause de ses études ou parce...
S'il était devenu un écrivain, justement. S'il avait étudié en écriture ou non. Puis il dit non, ça l'a commencé comme étant un hobby. Et ensuite, il est rentré en communication à l'université. Puis il a finalement décidé d'aller en écriture parce que c'était ça qui le faisait sentir le mieux. Et il nous a aussi dit que pour lui, il y avait trois choses qui comptaient énormément dans sa vie: l'écriture, sa famille et les arts martiaux.
Yeah.
Voilà. Ensuite, j'essaie de voir
comment qu'il a eu son premier break, sa première chance.
On l'a mentionné tout à l'heure, là, justement, avec Larry Niven.
Mm-hmm, c'est ça.
Et il rementionne justement, parlant du gouvernement, que tout le monde a été se fait mentir.
Tu as aussi dit qu'il était une personne très philosophe.
Ouais.
Tu te souviens pas qu'est-ce qu'il a dit?
Ah, il en dit tellement, ce gars-là, que c'est pire que Troy Denning.
C'est dans le fond, il dit qu'il respecte les...
Il respecte les gens qui croient en la force,
qui essaie d'amener le concept de tous les concepts de loyauté, blablabla.
C'est ça, qui essaie de vivre leur vie en Jedi, comme... Moi, je lui ai dit, moi, j'essaie énormément de vivre ma vie selon les principes des Jedi, et il dit... Je respecte ça énormément. Il dit qu'il faudrait qu'il y ait plus de gens justement là, qui essaient de voir à respecter chacun, tout un chacun comme ça, en faisant différentes choses dans leur vie à eux, mm-hmm. pour voir à balancer le tout. Il dit que ça serait beaucoup plus facile si dans la vie on était capable de dire...
De distinguer qu'est-ce qui est méchant et qu'est-ce qui est gentil.
Qu'est-ce qui est bon et méchant. Donc... c'est vraiment quelqu'un là, de très très philosophe sur plusieurs points.
Ben, 35 ans d'arts martiaux, tu deviens philosophe un peu. À la Yoda d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on entend comme musique? Tiens donc.
La musique de Yoda.
Exactement, quelle coïncidence.
Pour conclure, on lui a demandé, c'est en un mot, quel, quelle sensation il avait eu d'écrire un chapitre de la saga Star Wars. Il était très honoré. On lui a demandé s'il avait lu les livres de l'univers étendu. Il a dit non. On lui a dit qu'il fallait qu'il fasse le temps.
Il devrait
faire le temps pour lire les livres. Et il fait
le
non,
temps.
Pas du tout. Ça m'intéresse.
C'est pas dans mes priorités.
Exact. On lui a demandé ses commentaires par rapport à l'univers étendu versus
l'histoire des films.
L'histoire des films.
Et simplement qu'il a dit je connais pas l'univers étendu pour vraiment m'exprimer. Là.
Donc,
il n'a plus lu aucun livre.
Il n'a fait aucun commentaire. On lui a demandé à quel point c'était un fan avant et après. Il a dit que c'était toujours le.
Ça n'a pas vraiment changé.
Ça n'a rien changé, c'est toujours le même fan. Il a trouvé que c'était une opportunité extraordinaire de participer à ce projet-là. Il en était très heureux, mais il reste le même fan. On lui a demandé ce qu'il pensait des fans de Star Wars. Il dit qu'il les trouve très attachants, très intéressants.
C'est du monde comme. C'est comme un des mortels. Il y en a qui sont dans l'armée, il y en a qui ont des travails, des familles, des enfants. Puis c'est juste qu'ils ont une passion pour Star Wars.
En fait. Exact. On lui a demandé s'il était pour avoir une chance de travailler dans l'univers dans l'univers de Star Wars encore. Quelle histoire il aimerait raconter. Il savait pas.
Mais.
Principalement. Mais il nous a parlé d'un nouveau concept de jeu vidéo qui est dirigé
sur lequel il travaille
sur l'histoire avec certains de ses amis qui va justement parler avec qui va proposer le projet à Lucasfilm dans quelques mois et justement il nous dit c'est un type de jeu vidéo avec une nouvelle technologie où vous apprendriez à utiliser la force,
contrôler vos sentiments puis vos émotions. Puis le jeu en tant que tel, afin de faire des points, j'imagine, il s'agit de vraiment utiliser votre énergie intérieure, vos sentiments, puis, qui est détecté par des sensors, des sensors en français.
Des détecteurs.
Des détecteurs, exactement.
Qui sont branchés sur votre cerveau, en fait.
Sur votre corps, sur vos muscles, qui détectent plein de vos ondes cérébrales, puis vos réflexes musculaires, là, les chocs électriques, les espaces musculaires, l'électricité dans vos muscles, etc., qui ferait que vous contrôliez votre personnage dans le jeu. C'est assez weird, mais j'ai vu de quoi de semblable à la télévision, moi. Donc,
ça promet d'être.
En effet.
Ça risque d'être assez intéressant. Ça serait le fun si le premier jeu qui pouvait sortir comme ça était sur Star Wars.
Mais moi, le jeu que j'ai vu, c'était un first-person shooter. Puis le gars, il contrôlait le jeu juste en regardant puis en pensant. Il disait. Il pouvait donner des coups de poing.
Ça prend de la pratique, mais t'es capable d'y arriver.
C'était avancé. Ça regarde aussi la direction de tes yeux. Puis c'était assez spécial, m'a dit.
C'est génial. Et ensuite, on lui a demandé s'il avait quelque chose à promouvoir. Il nous a parlé d'un roman, d'un meurtre mystère qui a eu lieu il y a 2000 ans.
Avant, ouais. Tu sais, si vous voulez que ce jeu-là existe, là,
parlez-en. Ce jeu-là fonctionne.
Parlez-en. Parce que plus il y a de fans qui sont tout courant et qui sont intéressés, plus qu'ils vont avoir de chance quand ils vont le présenter à Lucasfilm que. Ça passe.
Que ça marche, justement, parce que quand Lucasfilm vont lui demander « Est-ce que tu crois que ça intéresserait vraiment les fans? Ben » à ce moment-là, il pourra répondre « Tout à fait, tu peux voir les résultats là et là. » Donc,
voilà. Continue sur le livre qui est en train d'écrire.
Le livre qui est en train d'écrire, en fait, se passe en Afrique il y a au-dessus de 2000 ans. Et ça devrait sortir Noël prochain.
D'accord. Il avait donné le titre, je me souviens pas.
Moi non plus, j'ai pas eu le temps de le prendre parce qu'il parle vite aussi. Mais c'est Women quelque chose. Donc, on vous invite à passer sur son site, de toute façon, www.lifewrite.com, LIFEWRITE.com, et site très intéressant. Et voilà.
Et c'est tout. Mon Dieu.
Tu voulais le faire vite, les faites vite.
C'est bon. Maintenant, on va aller à la chronique événement, immédiatement. Et voilà,
Et oui, alors, dans les prochaines semaines, on vous invite évidemment...
Regarde, écoutez, on a quelques extraits de Star Days 2 à vous passer. Donc, avant de passer à ce qui s'en vient dans votre petit coin de pays, comme événement et rencontre avec d'autres fans Star Wars, on va vous passer quelques extraits d'entrevues qui ont été faits par Obsidian 7 de cette clan à la convention Star Days. Donc, même si ça fait déjà un mois de ça, vous pouvez entendre un peu des commentaires des fans. Donc, on vous revient immédiatement après avec ce qui va se passer tout près de chez vous.
Alors, j'ai avec moi Thierry, alias Anakin1728. Alors, Thierry, nous sommes déjà vus à QC. Nous avons eu une autre entrevue pour Star Wars en direct. Quel est ton avis sur cette convention Star Day 2?
Ben déjà, ce qui m'avait attiré, c'était le nombre d'acteurs qui sont présents. Ensuite, eh ben, pour comme d'habitude, comme à QC, revoir les gens qui sont costumés, voir la beauté des costumes, voir s'il y a moyen de trouver une petite figurine à un prix intéressant. Et ben, voilà, en fait, en résumé, l'intérêt de ma venue.
D'accord, merci. Alors, quelle aurait été pour toi les différences ou la ressemblance entre cette convention et d'autres, comme celle de QC dont vous avez parlé la dernière fois?
La différence, ben en tout cas, on peut dire que là, il y a quand même beaucoup plus d'acteurs, ça c'est sûr. La différence, par contre, c'est ben, le volume des stands, enfin, je veux dire, la place que ça occupe, quoi. Hein, c'est peut-être un peu plus petit, hein, on est d'accord. Sinon, ben, oui, des conventions en Paris, moi, j'en ai pas encore fait souvent, hein, costumé, donc... Je ne peux pas encore te dire exactement ce que ça vaut par rapport aux autres choses, mais en tout cas, ça me plaît, moi déjà. C'est essentiel.
Effectivement. Alors, on a beaucoup d'événements annoncés pour la rentrée, d'événements costumés. Alors, est-ce que justement, vous voudriez plus d'événements de ce type, d'événements où il peut y avoir des rencontres, où il peut y avoir des acteurs, et est-ce que vous feriez l'effort d'y participer?
Ah oui, moi franchement, s'il y a des acteurs, enfin je veux dire déjà les acteurs qui sont là présents, c'est déjà pas mal, hein. Franchement c'est royal, mais si on peut voir un petit Mark Hamill, si on peut voir une petite Carrie Fisher, même pas une grande, une petite, hein, pas Carrie Fisher, ou une petite Natalie Portman, ou Denise Murren par exemple, je sais pas, non. Bon bah voilà, c'est, je pense que c'est un argument qui fait venir les gens, quoi.
Ah. D'accord, merci beaucoup Thierry.
Mais de rien.
Pour cette seconde interview, j'ai avec moi Yann, qu'on peut connaître sur la plupart des forums comme Obi-Yann. Alors Yann, quelle a été ton impression, ton avis sur cet événement, le Star Day 2?
Ouais, bah salut, vraiment l'événement, pour dire, on va dire que je pense que ça a été vraiment l'événement de l'année, puisque vu le nombre d'acteurs qui étaient présents ce week-end, c'est par rapport au comment accusait. Là, on a atteint pratiquement les 10 célébrités, donc c'est vrai qu'on a atteint vraiment le top du top, là, on va dire.
D'accord. Alors, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, de nombreux autres événements de ce type qui sont annoncés à la rentrée, peut-être un Star Day 3, on n'est pas forcément fixé, mais on sait qu'il va y avoir de nombreuses dates. Alors, quelle est votre impression sur cette accumulation d'événements? Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Et est-ce que vous essayerez d'être à ces événements?
Bah, je pense pouvoir être à tous ces événements, vu que l'année prochaine, moi, j'ai pas d'examen, donc je pourrais pouvoir plus participer aux events. Mais s'il y a un Star Day 3, je pense vraiment y participer. Maintenant, faudra voir aussi si c'est comme aujourd'hui sur un week-end ou si c'est comme sur un jour comme à la première édition, et voir aussi les acteurs qui seront présents la prochaine fois, quoi.
D'accord, donc en parlant des acteurs, ici une première, 9 acteurs. Alors, quelle est votre impression sur le rapport avec les acteurs, votre avis sur eux, enfin, quel a été votre ressenti par rapport à ces acteurs?
Bah, faut dire que les acteurs, ils ont été accueillants, quoi. Donc, bon, certains on les a vus, d'autres on les a jamais vus, comme Linmi, qui c'est qu'il y a d'autres encore, Yann Youb, puisque c'est sa première européenne, oui. Shakti aussi, oui. Bon, bah, Peter Mayhew, ça va faire déjà plusieurs reprises qu'on a pu avoir le plaisir de le rencontrer. Non, c'est vrai que les acteurs sont très sympathiques et sont vraiment prêts à nous ouvrir, à part pour la divulgation des événements sur l'épisode 3, c'est normal, mais c'est vrai que... Non, franchement, si tous les acteurs pouvaient être comme ça, ça serait super, quoi, je pense, hein, vraiment, quoi.
Eh bien, merci beaucoup, Yann, et à la prochaine fois.
À la prochaine, bonne vacances. Hein.
Alors, j'ai maintenant avec moi Pascal, alias Arcos.
Bonjour.
Alors Pascal, nous nous étions déjà vus à QC. Alors tout d'abord, une question basique, quel est ton avis sur cette convention?
Alors, beaucoup d'acteurs, je crois que c'est la principale information qu'on peut en retirer, 9 acteurs. Je n'ai jamais vu ça pour l'instant en Europe. Je ne crois pas avoir vu ça en Allemagne, même à JediCon. Je n'ai pas vu ça à Fax non plus. 9 acteurs Star Wars en même temps, c'est beaucoup. C'est sympa, on se retrouve tous ensemble, on peut discuter, c'est excellent, franchement c'est excellent.
D'accord, alors comme j'ai dit, nous étions vus à QC, vous avez fait beaucoup d'autres conventions auparavant, alors quelles sont les différences et les ressemblances que vous avez vues avec d'autres conventions, les choses principales que vous allez dire?
Eh bien, disons que là l'événement est bien monté autour des acteurs, énorme publicité, on ne peut pas ouvrir un magazine sont tombés sur les publicités Star Day. Même sur Internet, si vous tapez signature acteur Star Wars, vous tombez directement sur des sites qui rapportent au Star Day. Disons que le seul petit problème, peut-être, c'est que le coin est un peu encaissé. Les gens n'ont pas forcément la connaissance encore du magasin, et c'est bien dommage. Parce que le magasin est tout neuf, il est vraiment très bien agencé, c'est très clair, c'est très lumineux. Et puis l'équipe de Toy Star est vraiment très dynamique et à l'écoute des gens, et ça c'est pas forcément évident. En tout cas pour nous qui sommes venus, c'était excellent, c'était vraiment excellent.
Et maintenant, est-ce que vous pensez que cette convention et d'autres d'ailleurs sont un bon moyen pour vous de promouvoir les groupes dont vous faites partie, dont notamment la LCF, la Rebelle Légion?
Tout à fait sur deux plans. Le premier, vis-à-vis du public, hein, c'est-à-dire que on rencontre des gens qui ne connaissent pas forcément les groupes costumés, qui ne font pas forcément d'ailleurs l'amalgame entre costumés ou les costumes officiels et les fans, ou qui pensent qu'il n'existe que des déguisements. Donc ça nous permet de faire une information, de prouver que les fans peuvent être des gens réfléchis, structurés, qui recherchent la qualité, tant dans les qualités d'animation que dans la qualité de prestation, des présentations des costumes. Et d'autre part, ça nous permet aussi de nous faire connaître vis-à-vis des officiels, parce que souvent, ils cherchent de temps en temps des costumés ou pour leurs events, et ils ne savent pas forcément à qui s'adresser. Or, nous sommes là pour ça, vu que nous pouvons promouvoir à travers nos groupes des prestations, on va dire, qui suivent un cahier des charges très précis, encadré par un règlement étudié pour, quoi. Donc c'est un excellent moyen, notamment pour la 51e, la Rebelle Légion qui prend un peu plus d'ampleur en France en ce moment, et donc la LCF Star Wars qui fonctionne avec des autres groupes sur les events. Voilà.
D'accord, alors dernière question. Tout à l'heure, nous avons parlé du nombre important d'acteurs. Alors, quel a été votre avis sur le rapport qu'on peut avoir avec les acteurs, sur ce nombre qui est impressionnant, et sur les relations que vous avez pu avoir avec eux?
Alors, vis-à-vis des acteurs, je suis pas tous allé les voir. Ceux que j'ai lus étaient vraiment très très charmants, disponibles, souriants. C'est pas forcément non plus évident, parce que parfois on peut avoir des soucis personnels et il faut quand même assurer le spectacle. Show must go on, comme disaient les Anglais. Alors au niveau des nombres d'acteurs, je me demande si finalement c'est pas un peu beaucoup, parce que les gens qui font la queue doivent débourser peut-être un peu beaucoup une seule fois. Peut-être, je sais pas, qu'il aurait mieux valu répartir les acteurs sur deux jours différemment, mais c'est vrai que c'est du jamais vu. 9 acteurs en une seule fois, c'est vraiment beaucoup, et je pense que les passionnés n'hésitent pas à débourser de toute façon pour 9 acteurs. Pour la majorité des autres personnes, je ne sais pas, mais c'est vrai que ça fait tourner la tête, quoi. C'est assez étonnant.
D'accord, et ben merci beaucoup Arcos et à la prochaine.
Merci à Cisco surtout.
Merci. Alors je suis maintenant avec Jérôme, alias Jay de Star Wars Universe. Alors Jérôme, quel est votre avis sur cette convention Star Day 2?
Bah écoute, je vais pas dire que je suis agréablement surpris, puisque je savais déjà quelques petits trucs d'organisation, des petits spoilers qu'on avait eu avec Jesse l'organisateur. Mais même avec ces infos-là, je dois dire que je suis vraiment époustouflé devant tout le travail qui a été fait au niveau des décors, au niveau de l'ambiance, même au niveau des stands de fans. C'est vraiment excellent, excellente ambiance, et vraiment super convention, vraiment à conseiller à tout le monde.
Donc un succès pour vous. Est-ce que vous voudriez qu'il y ait plus d'événements de ce type pour que vous puissiez y revenir?
Ouais, tout à fait. Ben, de toute façon, il y a déjà des conventions, d'autres conventions qui sont prévues. Bon, on connaît déjà QC qui se passe tous les ans avec de plus en plus de succès, des acteurs qui viennent de plus en plus, qui donnent à d'autres acteurs le souhait de venir. Et tout à l'heure, on m'a dit qu'il allait y avoir d'autres conventions de ce type, des conventions plus familiales qui sont organisées par des conseils généraux avec certains fans de Star Wars en collaboration. Et on sait déjà qu'il y aura d'autres événements de ce type en plus du CRV, en plus de Starday et en plus de QC, donc il va y en avoir de plus en plus.
Et pour vous, est-ce que ces différentes conventions sont un bon moyen de promouvoir votre site?
Effectivement. Mais en plus de promouvoir le site sur des gens qu'on connaît déjà, on y a des personnes du forum qui peuvent venir, ça permet de les rencontrer, parce qu'il y a certaines personnes qui viennent aux sorties, on les connaît déjà, ça permet de les voir, mais ça permet aussi de voir certaines personnes qui n'ont pas l'habitude de venir aux sorties, donc là ça permet de les voir pour la première fois, de se rencontrer de visu, et surtout aussi de toucher un autre public, un public peut-être plus âgé qui n'a pas l'habitude de venir sur Internet, donc ça permet de faire découvrir d'autres personnes notre travail.
D'accord. Enfin, une dernière question. On a cessé de parler de ce nombre de 9 acteurs qui est effectivement du jamais vu en France. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette profusion d'acteurs et des rapports que vous avez pu avoir avec les acteurs, si vous avez pu leur parler
Alors, effectivement, c'est la première fois qu'il y a autant d'acteurs en France. Donc, on les a approchés, bien sûr. La plupart sont très sympas. On a fait des mini-interviews pour le site. Notamment des personnes comme Mike Quinn qui devant la caméra, il délirait avec nous, super sympa, de toute façon vous verrez. Mais bon, quelques acteurs, forcément il y a toujours des moins sympas qui veulent pas faire d'interview parce que à cause de Lucasfilm, normalement ils ont pas le droit de passer sur Internet. Mais je dirais que de manière générale, la plupart sont très sympas, ils se sont prêtés au jeu. Et ce que je disais, une ambiance vraiment conviviale, familiale même. Donc, point positif de la convention.
Merci beaucoup, Jérôme.
Merci à vous.
Alors, maintenant, pour notre dernière interview, j'ai avec moi Pingouin Génial, c'est-à-dire Sébastien. Alors, quel a été ton avis sur cette réunion, cette séance de signature?
Alors, déjà, très bon accueil de la part de la boutique. Il y a peu de boutiques sur Paris qui nous accueillent de la même façon. Une très bonne ambiance. Pas mal d'échanges. Bon, comme à chaque fois, on aurait aimé avoir un peu plus de monde pour nous et également pour la boutique. Mais plutôt positif, la vie. Bon, alors, on saute pas au plafond. Hein. On est très difficile. Plus le temps passe, plus on est difficile. Mais très bon avis quand même. Assez content.
Et comment comparais-tu cette séance de signature à d'autres séances de signature, d'autres conventions que tu as pu faire par le passé?
Bah, comme je disais, on n'a jamais été accueillis de cette façon-là, mais dans le sens positif, par des propriétaires de magasins. Je dirais que chaque convention ou séance de signature a sa particularité. Le collecteur rendez-vous, c'est un peu l'usine, puisque les signatures, c'est une activité annexe par rapport à d'autres activités qui sont donc la vente de produits dérivés. QC, c'est une ambiance familiale, puisque c'est vraiment en province, c'est plus sympa. Ici, on a été accueillis comme des rois, c'est sûr que c'est une très bonne ambiance. Je dirais que la difficulté, ça a été le nombre d'acteurs. 9 acteurs, c'est vraiment beaucoup. Beaucoup de travail pour nous. Je crois qu'avec un peu plus de recul, demain ou après-demain, j'aurai un avis un peu plus juste. Mais je dirais que la grosse différence, c'est l'entité. C'est vrai que là, on était partenaire, pas seulement invité. Donc beaucoup de travail, mais content, très content. Et on aimerait plus d'événements de ce type, surtout dans l'année à venir.
D'accord. Et donc tu es l'un des membres dirigeants de la LCF.
Je préfère le terme fondateur.
Bon, et dirigeant.
Non, parce que dirigeant, ça implique une hiérarchie, ça veut dire qu'on dirige. Tandis que là, comme c'est un esprit vraiment familial, je préfère le terme fondateur. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a donné le coup de pied dans la fourmilière pour que ça soit créé. Mais bon, ouais, on est des chiens de garde dans le sens où on vérifie que tout fonctionne bien. Mais dirigeant, ça fait un peu celui qui commande et c'est pas vraiment la casquette que je souhaite porter. Donc c'est pour ça que je préfère rectifier le terme.
Et est-ce que tu penses que ces deux jours ont été bons pour promouvoir ton ou tes associations?
Là, c'est un peu la question piège parce que parmi les visiteurs du Star Day, beaucoup d'habitués donc qui nous connaissaient déjà. Bon, c'est vrai qu'on a communiqué énormément sur ce qui va être fait, les différents événements auxquels on va participer ou ce qui est susceptible d'être fait. Les gens qui nous connaissaient pas venaient énormément. Leur principale motivation, c'était les dédicaces. Donc c'est vrai qu'ils ont d'abord fait la queue pour faire la dédicace. Peut-être ont-ils remarqué la bannière, parce qu'on en a un peu profité, il faut quand même l'avouer, la bannière au-dessus des acteurs concernant le site. Et en sortant, certains, quand ils avaient le temps, s'arrêtaient sur le stand pour discuter, pas forcément avec la LCF, mais avec l'ensemble des associations. Donc je pense, oui, il y a quand même quelque chose de positif, mais c'est pas la même chose que, par exemple, la QC, où c'est vraiment une réunion d'associations et où la dédicace passe au second plan. Là, c'est l'inverse. Donc je dirais que oui, ça s'est bien passé, compte tenu de ces détails-là. Maintenant, dire qu'on a énormément communiqué et qu'on aura beaucoup de retours derrière, peut-être pas. Mais ce n'était pas le but. Donc, content.
Ah, effectivement, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit. Et enfin, donc, tu as pu côtoyer un peu les acteurs. Alors, comment les trouves-tu? Comment trouves-tu ce fait d'avoir l'occasion de pouvoir côtoyer beaucoup d'acteurs en même temps? Est-ce qu'ils ont été sympathiques?
Bah, la chance que j'ai, peut-être par rapport à d'autres membres d'associations, c'est que comme je connais bien Jesse, qui est donc l'instigateur de l'événement, j'ai pu voir pas mal l'envers du décor, puisque étant partenaire, j'arrêtais pas de courir entre le stand, les différentes activités, et rapporter à Jesse ce dont on aurait besoin, ce qu'il faut organiser. Lui voulait aussi qu'on l'aide. Donc c'est sûr que j'ai pu voir pas mal l'envers du décor. Donc ça permet de voir les acteurs, de voir, ça va paraître bête ce que je dis, mais c'est des gens comme vous et moi. Donc pouvoir discuter un petit peu avec eux, leur demander si tout va bien alors qu'ils sont tranquillement attablés. Donc c'est sûr que c'est assez sympa. Maintenant, c'est des êtres humains qui sont qui ont aussi leurs états d'âme. Donc c'est sûr que sur deux jours, dire celui-là est sympa, celui-là n'est pas sympa, c'est un petit peu prétentieux, je pense. Je prends le cas de Peter Mayhew, qui a été vraiment super cool au collecteur rendez-vous. Aujourd'hui, un petit peu plus renfermé, mais bon, il y a des jours avec, il y a des jours sans. C'est comme pour tout le monde. Non, c'est des gens relativement sympas. Je dirais un petit clin d'œil pour le manipulateur de Max Ribot, qui a été super cool. L'acteur McQueen, qui fait Niem Nem, voilà, qui a beaucoup d'humour et qui est très sympa. Et Daylin Shu, donc très sympa, très timide, mais très très gentil. Les autres, ça veut pas dire qu'ils sont pas sympas, mais eux se sont vraiment mis à notre portée et ont été très très gentils et très accueillants.
Merci beaucoup pour ces quelques réponses.
C'était un plaisir, merci.
Et on est de retour à Star Wars en direct. Je savais que je l'oublierais, cette petite affaire-là, et voilà.
Bon. Excusez-moi.
On est de retour, on est en train de délirer un peu ici, là.
Transition, Danny.
Exactement.
Transition la prochaine fois.
On a déjà dépassé de 20 minutes, donc...
Alors, très simplement, pour ce qui s'en vient, il y a présentement sur les forums de sitelan.net un vote qui se fait pour la semaine de survie avec sitelan.net. Alors, on vous invite à passer sur les forums pour aller justement voter pour où vous désirez aller rester. Sinon, le 6, 7 et 8 août prochain ici au Québec, alors le 6 août, on parle d'une merveilleuse petite soirée au Dragon Rouge. Ensuite, qui est un restaurant médiéval. Le 7 août, on parle de La Ronde, qui est l'équivalent du Parc Astérix où tous nos amis français sont présentement.
Ou je pense Gidro vient de revenir. Là.
Ou cette émission qui vient de revenir.
Mon Dieu, ça va mal aujourd'hui.
Un peu dans la
lune. On est fatigué.
C'est ce qui arrive quand on dépasse. Ouais. Et ensuite, évidemment, le 8 août prochain, alors la prochaine émission de Star Wars en direct.
Et oui.
Qui sera effectivement en anglais.
À déterminer en français.
Oui.
En anglais, je crois que...
C'est avec l'auteur dont on parlait un petit peu plus tôt.
Qui va être sur MedStar 1. Battle Surgeon, avec une entrevue avec Michael Reeves.
Ouais.
Voilà. Alors, on va fermer l'émission là-dessus. Donc, merci à tous ceux qui sont venus nous écouter et ceux qui vont nous écouter en archive. Je vous rappelle que ce soir, à 19h, une émission en anglais. On va parler des Fan Films Awards qui a eu lieu à Comic-Con le jeudi dernier. On va parler des 20 finalistes. On va parler des gagnants, nos commentaires, etc. Peut-être qu'on va parler avec des gens qui ont été à Comic-Con. Espérons-le.
Ça serait bien, tiens, la semaine, ben pour le 8 août, là, faire un petit résumé de Comic-Con. Là.
Ça pourrait être bon, oui.
Ça pourrait être une petite idée.
Exactement. Évidemment, on recherche toujours notre co-animateur possible, supplémentaire. Donc, si aller sur StarWarsEnDirect.com, SWEnDirect.com, aller dans la rubrique recrutement et vérifier si vous satisfaisez les critères pour pouvoir être un co-animateur de Star Wars en direct. Ensuite, si vous avez si vous avez une idée de chronique que vous voudriez faire en onde, soit préenregistrée ou en direct, ça peut être des critiques de jeux vidéo, des critiques de romans, ou peu importe, ou que vous avez une idée originale, ça peut être un segment Star Wars Galaxy aussi, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Si vous êtes fan de Star Wars Galaxies et vous voulez en parler à toutes nos émissions, contactez-nous à info@swendirect.com, info@swendirect.com, et faites-nous parvenir votre idée. Essayez de garder la longueur de votre chronique en bas de 20 minutes. On essaie de garder une émission de 3 heures si possible. Donc,
Et vous voyez que c'est pas toujours très facile.
Exactement. Donc, si vous avez des idées, communiquez avec nous. La prochaine émission, c'est à déterminer. Possiblement qu'on va parler de Comic-Con plus profondément en détail. La prochaine émission est le 8 août 2004. Et on va aussi avoir en entrevue les deux producteurs du fan-film L'Étape qui viennent de retourner les scènes de leur film et qui vont nous, vu que le film est pratiquement terminé, ils vont nous parler de tout ça en ondes. Donc peut-être Comic-Con plus cette entrevue-là de parler de L'Étape, ça pourrait compléter l'émission. On remercie nos commanditaires, bien entendu, Cetlan.net, Legend Action Figures, ToyPalace.com et Simple-Net.ca. Allez sur la page commanditaire ou dans le bas de toutes les pages pour avoir vos liens directs avec nos commanditaires. Nous vous les suggérons.
Invite les fans montréalais aussi à passer par Bogo Divertissement sur la place de Saint-Hubert.
Oui.
Très beau petit magasin de DVD.
DVD, exactement. Nos partenaires aussi, Star Wars Galaxy France, Fan Wars en Belgique, la Ligue Costumée Francophone, Star Wars Universe, R2D2 Menace, Roger One, Camille Web, Anakin Web, Anakin World, Star Wars Connection, Most Umbra Vegas, Star Wars Federation et Star Wars en France. Tous les liens sont disponibles sur swendirect.com et nous les suggérons à cliquer sur le petit pop-up de la page d'accueil. Ensuite, nous rappelons à tous nos partenaires qui veulent nous envoyer un communiqué concernant leur sortie de fan que vous pouvez le faire à studio@commercialswendirect.com et puis nous allons les mentionner en onde. D'ailleurs, je crois que Obi-Yan nous avait envoyé un email pour la sortie qu'il préparait. Regarde dans... je me souviens plus, nous avait envoyé ça. Faudrait vérifier.
À la rapidement. Recherche, oui. Sortie du 18.
Qui est passé.
On est le 25.
Donc, on a oublié de le mentionner dans la dernière émission?
C'est fort possible.
Alors, voilà, désolé. Mais on n'avait pas d'émission pendant un mois, donc
c'était perdu. C'est le mercredi 18 août. Alors, première sortie pour la communauté de Boot Hill. Alors, comme les nouveaux membres arrivent de plus en plus depuis la naissance du forum, 18 jours, bon, blablabla. Bla, bla. Alors, les vacances approchant à grands pas, la première sortie sur le mois d'août sera le mercredi 18 août au parc Euro Disney Land Resort Paris pour la sortie du DVD The Haunted Mansion et les 999 fantômes. Cette sortie sera pour la communauté de Boot Hill, le moyen de pouvoir tous se connaître et pouvoir mettre un visage sur les pseudos. Le prix du billet est de 39 euros, mais plusieurs d'entre eux ont une passe annuelle qui se fera bénéficier de 20% à 4 personnes, donc 32 euros. Alors, pour la journée, le déroulement, très simple, ça commence à partir de 7 heures. Ils se retrouveront à la base de la gare Le Châtelet, qui est RER, à direction Marne-Vallée-Chessy Disneyland Resort Paris. Et à partir de là, à l'arrivée à la gare Chessy à 7h30, ils vont faire une petite présentation durant une demi-heure de tout un chacun, afin que vous puissiez vous rencontrer. Et ensuite, vous allez avoir une journée incroyable Alors, pour le site, c'est http://boot-il.site.voila.fr/. Et voilà.
Alors, si vous avez des commentaires ou suggestions à nous faire, écrivez-nous à l'adresse studio@commercialswendirect.com ou allez sur siteclan.net sur le forum, allez directement sur Star Wars en direct dans le lien forum qui vous amène directement sur siteclan.net dans le forum qu'on a réservé pour Star Wars en direct et vous pouvez, il y a un sujet, commentaires et suggestions, donc vous pouvez les laisser là aussi. Ou à studio@commercialswendirect.com. Si vous aimez l'émission, parlez-en autour de vous, comme d'habitude. C'est comme ça qu'on a de plus en plus d'auditeurs. Et puis, est-ce que c'est tout?
Bien
oui. Merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix de la communauté francophone de Star Wars, et on vous revoit dans 2 semaines. À la prochaine.
Cette émission vous a été rendue possible grâce à SimpleNet. Que vous soyez webmestre, joueur en ligne ou administrateur de serveurs de commerce électronique, chez SimpleNet, nous aurons toujours une solution pour répondre à vos besoins. Vous étiez à l'écoute de Star Wars en direct. Surveillez StarWarsOnDirect.com pour connaître la date de la prochaine émission. Legends Action Figures, l'endroit par excellence au Canada pour vos figurines et produits dérivés de Star Wars. www.legendsactionfigures.com.
Toy Palace est le seul arrêt pour vos produits dérivés de Star Wars. Vous y retrouverez toutes les collections Hasbro de Power of the Force 2 jusqu'à la récente collection Original Trilogy, ainsi que de nombreux produits d'autres licenciés Star Wars tels que Atacus, Master Replica, Code 3, Gentle Giant. Branchez-vous et faites l'expérience de l'achat en ligne chez Toy Palace, le numéro 1 d'Europe pour les produits dérivés de Star Wars. www.toy-palace.com.
Siteclan.net, c'est les toutes dernières actualités sur l'univers Star Wars, plusieurs dossiers sur la saga, des événements et rencontres entre fans, un énorme forum de discussion, une radio web à contenu 100% Star Wars incluant une ligne ouverte en direct, plusieurs concours ouverts au Québec et en Europe et bien plus encore. Ne résistez pas à la tentation du côté obscur. Cliquez sur le www.siteclan.net.
Sir, if you'll not be meeting me, I'll close down for a while.